Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un coup des limites, il y a un coup de cul, mais il
n'y
a rien d'extraordinaire.
Bon, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis de 20h à 22h, à mes côtés, comme tous les lundis, une Drôle de Dame qui vous raccroche au nez si vous dites la Mannschaft et non la nationale Mannschaft. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
T'es d'accord maintenant, c'est désormais
mais
toujours nationale Mannschaft.
J'avais raison, en tant que vieux con, j'avais raison.
J'avais raison avant d'avoir raison. Ouais. Une Drôle de Dame qui a plus de followers que tous les joueurs réunis de la sélection espagnole, cette bande d'inconnus. Bonsoir Fred Hermel.
J'aime bien sa présentation.
Ça a vérifié, mais c'est possible.
Ah mais je sais que j'ai
zéro star en Espagne.
J'ai 255 000 followers sur Twitter et avec un copain en Espagne, on s'est amusé à regarder et en fait, on a plus de followers que la moyenne des joueurs espagnols.
Et depuis qu'il n'y a plus de star, on en parlera tout à l'heure dans la sélection espagnole.
Ah oui, oui.
Une drôle dame qui va payer un deuxième resto à l'after alors qu'il n'a pas encore payé le premier. Cigarette Southgate est champion du monde. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Tu t'engages ou pas ce soir?
Ouais, je m'engage, ouais, le Raymond Domenech anglais, tu veux dire. Moi,
tu t'engages à payer un resto à l'after. Cigarette Southgate est champion du monde.
Allez, avec plaisir.
Ok, ça c'est marche. Noté.
Non, mais attends, mais l'after, parce que avec le problème, c'est qu'avec avec
la famille de l'after élargie.
Ouais, non, mais c'est ça. Parce que Julien, personnes. On sait jamais qui l'invite, parce qu'à la fin, il va inviter les patrons, quoi. Vous, là, tu vois, mais pas nous.
Qu'est-ce que tu racontes?
Non.
Mais sur le, non, mais tu invites.
J'invite tout le monde.
Minimum 3 heures d'antenne par semaine? Ah, dès que tu fais au moins 3 heures d'antenne par semaine,
non, après, bon, bref. C'est lui qui choisira le restaurant, hein, d'accord?
Ouais.
Oh, on lui accorde ça au moins. Et puis une drôle de dame qui ne va pas connaître la clim en hiver. Bonsoir, Johan Crochet.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Remarque, la clim il a prise il y a 8 mois, hein, quand l'Italie s'est pas qualifiée pour le mondial.
Ah oui. Oh! Tu parles comme les jeunes.
Il faisait un peu
en fait.
Frais, c'est vrai.
Il faisait un peu frais. Alors ce soir, messieurs, bien sûr, on va parler de vos sélections qui ne vont pas mieux que l'équipe de France, à part, paradoxalement, la sélection de Johan, l'Italie, qui ne jouera pas le mondial. On évoquera également l'hécatombe de blessés. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Et puis, est-ce que les débats en France autour du mondial au Qatar est un sujet aussi dans vos pays respectifs? On en parle à partir de 21h. Soyez là, au 32-16 également, pour participer au débat avec Fred, Johan, Julien et Polo. Gilbert Brébois est avec nous ce soir, comme tous les soirs.
Salut les
Salut
gars.
Salut Gilbert.
Salut les gars. Alors, puisque vous allez parler du Qatar, écoutez aussi à 23h tout à l'heure, parce qu'on va faire une petite suite. On aura un Français qui vit au Qatar et qui va nous raconter ce qui se dit sur place, la vie des expatriés là-bas. Il y a pas mal d'histoires, hein, des expatriés qui ont été. On leur a dit écoutez, vous êtes gentils, mais il faut déménager là parce qu'on a besoin de vos appartements pendant la Coupe du Monde. Lui, il était au fameux match test là, qui paraît-il s'est mal passé. Lui, il dit bon, franchement, ça a été un peu exagéré. Enfin voilà, la vision du Qatar, c'est intéressant. Donc il sera avec nous tout à l'heure à 23h. Avant cela, l'équipe de France, Florent Gautreau veut en parler évidemment. Lui, il estime que Deschamps est sorti renforcé de la semaine qui vient de passer. Là, il va falloir qu'il détaille, oui. Bien sûr. Daniel aussi veut en parler. Et puis, il y a les matchs hein, ce soir. Donc, on reprendra nos drôles de dames tout à l'heure pour débriefer quand même, notamment le Angleterre-Allemagne qui est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi au programme? Ah oui, des supporters parisiens qui veulent faire renaître la tribune Boulogne qui ne ressemble plus à rien. Selon eux. Donc, on va voir ce qu'ils veulent faire. Alors, ils sont apolitiques. Ils disent
on
va faire une nouvelle tribune Boulogne. Mais comment, pourquoi, et puis qu'est-ce qu'on veut au fond dans nos stades, dans les tribunes populaires? Ça nous posera cette question-là. Voilà, entre autres, le programme de ce soir, de 22h à minuit. Autant dire que ça va être du très très haut niveau.
Oh, c'est pas mal, hein. Ah, franchement.
C'est dingue, elles sont belles, les 4 heures, là.
Ah ouais. Bah,
vous nous appelez au 32-16, le hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio sur l'application RMC Sport. Alors, messieurs, effectivement, j'ai bien dit, trois de nos sélections qui nous intéressent ce soir jouent Angleterre-Allemagne à 20h45. Hongrie-Italie également à 20h45. On parlera de l'Espagne qui sera au Portugal demain soir. Gros match attendu. Ah, oui. Gros match ou pas d'ailleurs. Est-ce que ça vous intéresse? Ça fera partie du débat, évidemment. Je dis Angleterre-Allemagne et Hongrie-Italie, c'est le groupe 3 hein, de la Ligue des Nations. Intéressant de constater également que les deux leaders du groupe n'iront pas au mondial. Hongrie, premier du groupe 3, Italie, deuxième. Tiens, question rapide, les gars, avant d'ouvrir les débats. Vote à main levée, qui est le moins bien, selon vous, à 55 jours du mondial? L'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ou la France? Julien, tu dirais qui, toi?
C'est une bonne question. Le problème que j'ai moi avec mes Anglais rapidement, c'est que moi j'ai pas de blessés moi. Donc autant les Français, tu peux dire voilà, il y a les Allemands, peut-être pas les Espagnols non plus, mais en tout cas côté français, c'est un fait. Pour nous, on a, je pense qu'on a des problèmes structurels quand même le dire Polo, beaucoup plus importants que les trois autres. Donc j'ai bien peur que ce soit moi le plus à la traîne et le plus inquiétant.
Polo. Toi ?
Je suis pas persuadé que ces trois sélections soient si à la traîne que ça, en fait. Je pense qu'elles seront présentes au Mondial et qu'elles vont faire des choses au Mondial. Donc, moi, je suis pas alarmiste. Donc, je sais pas s'il faut... je sais pas si c'est le plus mauvais des trois ou le moins bon des trois. Je sais pas comment faut dire ça. Moi, je pense peut-être que les Anglais sont les moins bien préparés.
Fred ?
Moi, je suis pas très optimiste sur l'Espagne parce que c'est une génération sans talent, ou alors avec un talent minimum. Il y a pas de grands stars dans cette équipe d'Espagne. Donc, et quand on a un sélectionneur comme Luis Enrique qui a 2 mois d'une Coupe du Monde, fait encore des essais parce qu'il sait pas encore vraiment ce qu'il va faire, je suis plutôt inquiet pour l'Espagne. Je pense qu'à un moment, la France, oui, mais il y a tellement de bons joueurs que c'est vrai que si tu regardes ça. Tu regardes pas les réservoirs, tu dis oh là la France ça va pas. Mais simplement tu vois les baisser et puis tu vois le talent qu'il y a potentiellement qu'on n'a pas en Espagne. Donc moi je suis pas très optimiste pour les Espagnols.
Johan.
Ouais, je vais pas être très original, mais le moins convaincant c'est clairement les Anglais, parce qu'en plus je les ai vus contre l'Italie, et une Italie qui était une équipe B. Donc si t'arrives pas aujourd'hui à battre l'Italie, on critique beaucoup le réservoir. Quand toi tu as un des plus gros réservoirs avec l'équipe de France, ça me paraît compliqué. Et autant on a des choses dans d'autres sélections qui peuvent s'améliorer, autant si Southgate reste l'entraîneur jusqu'à la Coupe du Monde, ça me paraît très délicat, ouais.
Alors justement, commençons avec l'Angleterre, Julien. Commençons avec toi, l'Angleterre battue par l'Italie vendredi soir 1-0. Le bilan, c'est 0 victoire sur les 4 derniers matchs pour la sélection. Et au-delà des résultats, c'est le fond également. Elle n'a quasiment rien proposé.
Voilà, rien du tout, c'est vrai, on en avait parlé le soir de la rencontre avec Yo, sur le fait que, comme il vient de le dire d'ailleurs, c'était une équipe B, voire même C, du côté de l'Italie. Alors que nous, c'était l'équipe type. Je pense que c'était une équipe très proche de celle qui débutera à la Coupe du Monde, pardon. Celle de ce soir avec quelques changements, John Stones qui revient par exemple, Luke Shaw aussi dans le couloir gauche, piston gauche, à la place de Bukayo Saka. Mais effectivement, et dans le jeu avec ballon et sans ballon, et dans la structure de cette équipe, dans sa construction, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Et Gareth Southgate est de plus en plus sous pression, il y a de plus en plus de demandes qui s'en aillent. C'est que sa conférence de presse d'après match contre l'Italie était un peu bizarre, dans le sens où tu avais l'impression à un moment qu'il a même dit j'ai regardé s'il y avait d'autres candidats, mais je pense que je suis en fait il y a que moi, donc je pense que je suis encore la bonne personne pour amener cette équipe à la Coupe du Monde. Mais c'était presque comme s'il avait déjà envisagé le fait qu'il pourrait pas être là au mois de novembre pour aller au Qatar. C'était un petit peu particulier, j'ai trouvé ça. Après il fait n'importe quoi dans certains choix.
Julien, juste après, est-ce qu'il y a un risque si ce soir il en prend 3 par exemple, est-ce que ça pourrait être fatal à Southgate?
Je pense que la fédération se pose de plus en plus de questions, notamment par rapport à la pression médiatique et la pression populaire des supporters. Quand ton sélectionneur est hué 2 rencontres de suite, c'est pas bon. Donc, il se pose des questions. Mais comme il n'y a pas d'alternative vraiment aujourd'hui, là, de disponible, c'est pas comme si, je sais pas, moi, un Frank Lampard ou un Steven Gerrard ou un Eddie Howe, comme ils veulent rester chez les Anglais, ils veulent rester avec un entraîneur anglais. Comme t'as pas vraiment d'alternative crédible, il restera là, s'ils prennent la Coupe du Monde en plus, quoi qu'il arrive ce soir. Mais c'est vrai que si ce soir, ils prennent une volée, la pression va devenir de plus en plus intenable. Après, il pourrait partir de lui-même, bien sûr, mais je pense pas qu'il abandonnerait comme ça le pays. Mais c'est vrai que il est de plus en plus critiqué, et surtout, autant par moment tu peux critiquer, mais sans y croire vraiment, ou sans avoir vraiment de points critiques assez importants. Mais là, entre les choix qu'il fait, les mauvais résultats, l'absence de but, l'absence de créativité, le problème Alexander-Arnold qui joue pas, qui est pas dans le groupe, sans qu'on sache vraiment pourquoi, alors que tu manques énormément de créativité, et que même si t'es pas convaincu par son talent défensif, ce que je peux comprendre, mais faut reconnaître qu'avec ballon, c'est l'arrière droit le plus créatif au monde. Donc t'en passer, faudrait vraiment que t'aies quelque chose de beaucoup plus fort, ce qui n'est pas le cas en plus. Donc tous ces choix-là interpellent vraiment et font que la pression s'accentue de plus en plus.
C'est vrai qu'il a l'air perdu. Vas-y, Johan.
Non, je voulais poser une question à Julien, parce que j'ai pas trop regardé, mais. Quelles sont les explications sur le fait de rester à 3 derrière? Parce que tu parlais d'Alexander-Arnold, effectivement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas les pistons vraiment pour jouer
dans cette composition-là, dans ce dispositif-là. On l'a vu contre l'Italie avec une adaptation en plus de Saka qui était vraiment très bizarre.
Il y a Bukayo Saka qui est ailier droit, Arsenal qui est piston gauche hein, contre l'Italie.
Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas, est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il peut revenir à 4? Comment ouais, il dit juste... son schéma?
Juste que c'est comme ça qu'il a eu les meilleurs résultats, ce qui dans un sens est vrai, hein. Ça veut pas forcément dire que si tu continuerais comme ça, tu continueras à avoir des très bons résultats et aller en demi-finale et finale des grosses compétitions. De toute façon, mais je pense que par rapport aux critiques, il est un peu obligé de se protéger avec cette demi-finale de Coupe du Monde et cette finale d'Euro. C'est sûr. Quand tu regardes les résultats depuis la finale perdue contre tes Italiens, c'est 14 matchs, je crois, 7 victoires seulement, 3 défaites et 4 matchs nuls, ou 4 matchs nuls et 3 défaites, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très décevant, mais il se protégera quoi qu'il arrive derrière le, mais regardez l'Euro et regardez la Coupe du Monde et regardez, c'était une défense à 3, et donc regardez, on va revenir à ce qu'on faisait très bien à la base, ce qui nous a amené loin dans ces compétitions là alors que je suis même pas sûr qu'à l'époque déjà il avait les joueurs pour jouer comme ça. Ça lui a réussi certes, mais je pense que ça lui a réussi pour d'autres raisons que des raisons purement tactiques. Et après, il a recours effectivement à ce qui les a fait gagner avant. Mais je sais pas, on va voir ce soir. Ça va être intéressant de voir ce soir, mais j'ai vraiment des doutes. Après, il a toujours été un très bon entraîneur d'homme à homme. C'est ce qui fait sa grande qualité, parce que je vais le rappeler, c'est pas non plus pour dire à tout le monde que j'avais eu raison depuis le départ, mais en entraîneur de club, il a toujours été nul. Il a jamais été bon dans les clubs où il a entraîné. Après, il est allé chez les jeunes. Il voulait pas de ce job-là parce qu'il savait très bien que la pression, etc. Il en a hérité d'abord en tant qu'intérimaire, et puis finalement, comme ça marchait bien, comme en tant que sélectionneur permanent. Mais tactiquement, il n'a jamais été un très bon entraîneur. Donc aujourd'hui, on voit les limites que finalement, il a toujours affichées.
Tu aurais pu dire ça là, en une du Sunday Times ce week-end, qui dit « Southgate n'est pas devenu un mauvais manager du jour au lendemain, il l'a toujours été ». Quelle violence.
Ouais, mais alors Rod Liddell, qui est le...
C'est vrai, l'éditorialiste, ce matin, ouais,
voilà, magnifique.
Pierre-Étienne dans l'équipe en parle, et effectivement, c'est un chroniqueur qui est très polémique toujours dans tout. C'est pas que sur le foot, mais il a des chroniques sur la politique, etc. Il est toujours dans les extrêmes beaucoup, donc ça me surprend pas venant de lui. Mais c'est vrai que la pression médiatique augmente, et quand de la pression médiatique en Angleterre, que ce soit tabloïd ou pas tabloïd, une fois qu'ils tombent dans le viseur, après ils te lâchent pas.
Ce qu'il écrit, c'est ce que tu dis à l'instant aussi, Julien, finalement quoi.
Oui, mais c'est ce que tout le monde écrit, c'est sûr. Mais après on est à 2 mois d'une Coupe du Monde, et c'est pas le moment non plus de que le pays se divise et que voilà tout ça, mais c'est vrai qu'une victoire ce soir ferait beaucoup beaucoup de bien à tout le monde. Après il y a Johan qui m'engraine en me disant dit que c'est le Max Allegri anglais, après on me dit que c'est le Raymond Domenech anglais, donc maintenant c'est la foire hein.
Dans un instant, justement, on parle de l'adversaire de l'Angleterre ce soir, l'Allemagne avec Polo. Ça va un peu moins mal, peut-être, quand bien même le bilan 2022 est pas bon du tout à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. L'Espagne et l'Italie aussi au programme, bien sûr. Vous pouvez nous appeler au 32-16, n'hésitez pas à poser vos questions aux drôles de dames. Vous écoutez Génération After, 20h15 sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, merci d'être avec nous sur RMC, 20h15, hein, ce lundi soir, avec Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Polo Breitner. On parle bien sûr, on se projette sur la Coupe du Monde dans 55 jours, le mondial qui débutera, ce sera le 20 novembre. Mais d'abord, on parle des matchs qui nous intéressent du week-end et ceux qui vont se jouer ce soir, notamment cette Angleterre-Allemagne. Polo, d'ailleurs, revenons à vendredi soir, hein, première défaite de la Nationalmannschaft, version Hansi Flick, c'était contre la Hongrie. Bon, l'épouvantail, hein, leader de groupe 3, qui plus est à domicile hein, pour les Allemands.
Oui, enfin, je trouve qu'on met toujours un peu de côté la performance de la Hongrie dans ce groupe, parce qu'elle a embêté tout le monde. Donc, un petit peu dans la lignée de ce qui s'est passé à l'Euro 2021. Évidemment, mais c'est intéressant parce que quand tu vois la presse, le journal Kicker fait 10 pages sur la sélection allemande, et en gros, t'as l'impression que c'est devenu une équipe avec des amateurs. Donc avant la défaite contre la Hongrie, on nous parlait qu'ils pouvaient aller chercher le titre mondial au Qatar. Et là, d'un seul coup, cette défaite fait que plus rien ne marche, le bloc Bayern ne marche pas, etc. Non, la Nationalmannschaft a un problème, c'est qu'elle n'a pas de grand buteur. Elle a toujours des soucis, mais depuis des années, contre les équipes qui jouent en bloc bas. Et c'était encore une fois le cas de la Hongrie. Mais je vous rappelle, il y a quelques temps, la défaite contre la Macédoine du Nord en qualif pour l'Euro aussi, où ils avaient quasiment pas vu le ballon, les Macédoniens. bien, mais ils savaient faire des contres et ça avait fonctionné. Mais on oublie aussi les points positifs de ce groupe, c'est qu'on s'est trouvé un véritable leader en défense centrale, c'est Rudiger, tout le monde l'a oublié. C'est-à-dire, ça fait quelques mois qu'il est là, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que Juju peut me renseigner comment c'est passé en Angleterre, mais il est transformé. C'est le vrai boss, c'est le vrai boss de la défense, alors que depuis des années, on nous explique qu'il n'y a pas de patron en défense centrale en Allemagne. Donc il y a des choses qui ne vont pas à quelques mois, évidemment, du mondial, mais je trouve qu'on passe du chaud, enfin, c'est complètement fou, on passe de 40 degrés à l'ombre à moins 30, quoi, c'est à chaque fois. Et je pense que c'est un peu le problème de l'Allemagne, qui n'a pas de certitude dans le sens où elle sort de deux tournois internationaux, l'Euro 2021, évidemment, et la Coupe du Monde 2010 ratée. Et qu'on a un groupe qui est compliqué, où il y aura un match piège contre le Japon pour commencer. Maintenant, si l'Allemagne passe le Japon assez tranquillement, entre guillemets, la pression sera mise sur l'Espagne. Et puis, on verra, on pourrait d'ailleurs très bien imaginer un 0-0 bien pourri des familles pour régler ça et que tout le monde se qualifie. Donc, je vois pas pourquoi être plus noir que noir dans la presse allemande par rapport à la sélection, comme, mais c'est les mêmes qui, il y a encore un mois, disaient que l'Allemagne pourrait être championne du monde. Donc, je reste.
Oui, mais est-ce qu'ils avaient raison il y a un mois? C'est ça la question, Polo.
Mais je sais pas, on verra à la Coupe du Monde 2022. Enfin, je veux dire, on a l'un des meilleurs gardiens du monde. Son remplaçant, c'est Ter Stegen. Il y a des défenseurs centraux qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Il y a un milieu de terrain, tu dois choisir entre Gundogan et Goretzka à côté de Kimmich. T'as le bloc Bayern qui est là, Sané, Müller, Gnabry, qui j'ai oublié, t'as Timo Werner qui est pas terrible, qui joue Moussiala, le jeune qui est là, qui peut faire. Enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est une très très belle sélection. C'est peut-être pas la plus grande équipe qu'on ait vue, mais tout le monde oublie aussi le 5-2 qu'ils ont infligé en groupe à l'Italie. L'Italie, c'est un symbole pour l'Allemagne. C'est la bête noire de l'Allemagne, historiquement parlant. L'Angleterre est finaliste de l'Euro. Il y a eu 1-1 chez nous. Alors, de mémoire, l'Angleterre, l'Allemagne avait dominé le match aller. Donc, il y a le 1-1 en Italie était très équilibré avec chacun sa mi-temps, etc. Donc, perdre contre la Hongrie 1-0, évidemment que ça fait bizarre parce que c'est la Hongrie et c'est pas les fameuses grandes nations mondiales. Mais quand je vois ce que produit la Hongrie dans son schéma de jeu qui a maîtrisé à la perfection, je dis ça peut arriver. Moi, c'est pas bien grave. Le problème, c'est qu'on avait la possibilité. Les gens ont pensé que si on gagnait la Hongrie, on était premier du groupe et donc potentiellement on pouvait se retrouver dans le Final Four. Il se fait que la Ligue des Nations, les trois éditions, ne réussissent pas à l'Allemagne. Donc je veux pas embellir ou je veux pas noircir le tableau, mais moi ça me fait ni chaud ni froid en fait. Ce qui se passe.
T'as pas l'impression que le destin de la Nationalmannschaft tient au destin du Bayern Munich? En clair, quand l'Allemagne va pas bien, le Bayern va pas bien.
Et c'est dans l'autre sens, d'ailleurs. Ça fait 40 ans, de toute façon, que c'est comme ça. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, c'est vrai que la période actuelle fait que le Bayern n'est pas non plus étincelant. Maintenant, on verra ce qui va se passer après la trêve internationale. Ce que je vois, c'est que pour moi, il y a le problème, c'est le vrai neuf. À tel point, on a parlé avec Fred ce week-end et avec Jérémy Ménez, c'est que dans la presse allemande, on se demande s'il faut pas aller chercher Niklas Füllkrug, qui évidemment vous ne connaissez pas.
Je connaissais pas. Quand tu m'en as parlé dimanche à l'antenne,
qui est juste un attaquant de Werder Bremen, qui a marqué 5 buts en cette rencontre et qui a passé une partie de sa carrière en seconde division, tout simplement parce qu'il mesure 1m90. Donc on se dit que ça pourrait être utile contre les équipes qui ont des blocs bas. Mais ce problème d'efficacité et de comment jouer contre les équipes qui sont à 30 mètres, qui jouent pendant 90 minutes, 30 mètres, n'est pas nouveau. C'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde 2018. Ça a été la même chose contre la Hongrie lors de l'Euro 2021. Donc voilà, mais j'ai pas envie de noircir le tableau plus qu'il n'est.
Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de l'Allemagne, l'Espagne a un peu le même problème. Absence de numéro 9 efficace, et pareil, en Espagne, il y a un débat concernant Iago Aspas, meilleur buteur espagnol de la Liga, Fredo, qui n'est pas appelé.
Ben oui, parce que on a vu ce qui s'est encore passé ce week-end face à la Suisse, hein, défaite de 1 à domicile à Saragosse, en sachant que l'Espagne était idéalement placée pour se qualifier pour le Final Four, puisque l'Espagne en cas de victoire
aurait eu un point d'avance contre le Portugal.
N'avait besoin que d'un nul à Braga demain soir au Portugal pour terminer premier du groupe. Alors que là, l'Espagne est obligée de gagner, donc c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il y a une star dans cette équipe. Il s'appelle Luis Enrique Martinez, c'est l'entraîneur. Et c'est lui qui dirige tout. Il y a un type qui s'appelle Iago Aspas, qui est vraiment en plus à vivre au quotidien. C'est facile, il a un comportement
exemplaire. 6 matchs, 5 millions les gars cette saison.
Mais bien sûr, et puis il est excellent Iago Aspas, chez Celta Vigo. La question lui est posée lors de l'annonce de la liste. Il dit, Iago Aspas ne me convient pas, puisqu'au Celta de Vigo, tout le monde joue pour Iago Aspas, c'est normal qu'il marque.
Mais ce qu'il s'entend?
Bah ouais, t'as un mec qui marque, il donne le ballon, enfin un truc à con. Et lui ensuite dit, moi, je veux un joueur qui joue pour tout le monde et que tout le monde joue pour tout le monde. Donc en gros, c'est le profil de Gao Aspas. Là, il a commencé le match contre la Suisse avec Marco Asensio en faux numéro 9. Il n'a jamais joué en sélection en faux numéro 9. Finalement, il a fait une passe décisive, mais pas en tant que faux numéro 9. Bref, il y a un type qui s'appelle Morata. Il n'a pas joué. Il l'aime pas trop. Il l'aime pas trop, Luis Enrique. Sauf que Morata, et Dieu sait si je suis pas un fan de Morata, Morata, il peut te marquer un but quand même. Tu vois, enfin, c'est un buteur, c'est un vrai numéro 9, c'est quelqu'un de référence, etc. La question qu'on se pose en Espagne, c'est comment est-ce possible, à deux mois d'une Coupe du Monde, d'avoir aussi peu de certitude. Quand, par exemple, Luis Enrique, lors du match contre la Suisse, fait débuter 5 joueurs sur 11 qui ne sont que de petits remplaçants dans leur club respectif. Je dis petits, c'est-à-dire ce sont 5 joueurs qui ont disputé moins de 50% des minutes possibles en club. C'est quand même un peu bizarre de pas faire confiance. Alors t'as un Iago Aspas qui joue toutes les minutes, qui claque quasiment un but par match, il joue pas, et t'as Asensio, j'aime beaucoup Asensio, qui joue dans un rôle qui est pas le sien alors qu'il joue quasiment pas au Real. Et lui, c'est moins de 50% des minutes, il joue 20%. Donc il y a des incompréhensions que Luis Enrique n'est pas capable d'expliquer, qui semble convenir au président de la fédération, Luis Rubiales, qui soutient Luis Enrique. Luis Enrique, il quitte le mondial après trois défaites, il sera encore sélectionneur au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y a une obsession avec Luis Enrique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Luis Enrique avait prévu pour l'Euro, en gros, un quart de finale, tout le monde était content, parce que le rendez-vous, c'était ce mondial-ci. Il fallait emmener une nouvelle génération, les Pedri, etc., vers le mondial, en faisant un euro, on va dire, de transition. Cet euro, en fait, qui a été globalement assez mauvais techniquement et physiquement, ça a été un mauvais euro. L'Espagne s'est retrouvée en demi-finale, au-delà des espérances. Beaucoup de gens ont cru que l'Espagne était arrivée, et on s'aperçoit finalement que cet euro, plus ou moins réussi, a perturbé, en fait, la progression de cette équipe qui n'est. Elle était trop belle au bal anglais et aujourd'hui on se rend compte
qu'elle ça pouvait suffire.
Ouais, elle est mal habillée aujourd'hui et j'insiste là-dessus. Et c'est terrible de le dire quand on a connu les Iniesta, les Xavi, tous ces joueurs, les Ramos, etc. C'est qu'il n'y a pas de grands talents dans cette équipe. Je termine. Tu regardes le milieu de terrain qui est le milieu du Barça. Tu as un vieux talent comme Busquets qui joue ses derniers matchs et tu as deux jeunes talents qui seront peut-être un jour candidats au Ballon d'Or. Mais ni Gavi ni Pedri, aujourd'hui, ne sont de grandes stars. Enfin, ils sont merveilleux, mais ils peuvent pas tenir une équipe à eux-mêmes. Et il y avait une réflexion en Espagne qui était faite par beaucoup de gens, en disant, mais les gens qui s'interrogent sur le niveau de l'Espagne, il y a zéro nommé au Ballon d'Or qui est la nationalité espagnole cette saison. Et ça veut dire quelque chose.
Bon, est-ce bien utile? En tout cas, à tel point qu'on fait appel à... Enfin, il y a un débat en Espagne, un mouvement qui s'est lancé pour réclamer le retour de Sergio Ramos en sélection.
Celui qui n'a jamais voulu partir. C'est pas Ramos, oui, qui a quitté la sélection. C'est Luis Enrique qui l'a écarté. Ça paraissait justifié la saison dernière au PSG, oui, tout le temps blessé. Cette année, j'ai l'impression qu'il joue tous les matchs. J'ai l'impression qu'il n'est pas si mauvais. Donc naturellement, quand on voit le désastre de la défense espagnole, avec Eric Garcia, qui n'est pas un très bon défenseur, on le voit à Barça, Pau Torres, qui a eu un match horrible contre la Suisse, il y a Aymeric Laporte, sauf qu'Aymeric Laporte, il est blessé. Je ne sais pas si tu as des nouvelles, cher Julien, quand est-ce qu'il va revenir, mais en Espagne, on se demande s'il sera en forme pour le Mondial. En tout cas, dans quel état il va arriver au Mondial.
Julien.
Non, je crois qu'il devrait reprendre l'entraînement après la trêve internationale. Là.
En tout cas, mais c'est ce qu'on... Ça fait un moment qu'il a arrêté quand même, là.
Ouais, depuis fin août, je crois.
Donc, dans quel état... Enfin, tu vois, il y a plus grand... Et puis, donc, la question, logiquement, se pose. Ramos veut revenir en sélection. Ramos joue au PSG. Il n'est pas mauvais. Bah, ça serait peut-être bien de récupérer un joueur comme ça.
On est d'accord.
Bah non, pourquoi? Parce que c'est un leader, parce que c'est une star. Et Luis Enrique, il veut être la seule star et le seul leader.
Voilà. Voilà pour l'Espagne. Dans un instant, on va parler de l'Italie avec Johan, bien sûr, grand absent du mondial, mais qui bosse bien sous Mancini. Johan va nous dire pourquoi dans un instant. Également, on parlera des hécatombes de blessés qui ne touchent pas seulement la France. Toutes vos sélections du mois du mondial. C'est marrant. Souvent l'impression que c'est inhérent aux grandes nations qui ont une vraie ambition sur une Coupe du Monde. Il y a souvent des doutes légitimes, plus ou moins, des inquiétudes, plus on approche d'un mondial. On en parle dans un instant avec vous, Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet et Fred Armel. Vous écoutez Génération After spécial Drôle de Dame sur RMC, 20h27, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h.
Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, spécial drôle de dame sur RMC, 20h31 avec Paulo Breitner, Johan Crochet, Julien Laurence et Fred Hermel. Après l'Espagne, après l'Angleterre et l'Allemagne, l'Italie, qui ne sera donc pas au Mondial, je le rappelle pour ceux qui l'apprendraient ce soir.
Merci de le rappeler pour la 75e fois.
Je préfère le rappeler,
Nico.
Tu sais, c'est mon travail de journaliste.
Peut-être que... Des faits, rien que des faits, hein, tu sais, Johan. Hein,
c'est... Peut-être des auditeurs qui se foutent depuis 3 heures et qui... Ah, donc l'Italie ne sera pas au Mondial, bien sûr. Mais l'Italie travaille bien, mon cher Johan. T'en as souvent parlé dans l'after sur RMC. Le chef laboratoire Mancini, qui fait une revue d'effectifs très large depuis plusieurs années déjà. Bon, je rappelle qu'il a quand même gagné l'Euro, hein, cet homme-là, qui sera donc pas au Mondial. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sélection? Est-ce qu'il est en train de resserrer un petit peu son effectif ou pas encore, Mancini?
Non, pas encore. C'est un peu tôt parce qu'il y a eu aussi beaucoup de blessés. On a beaucoup parlé en France des blessés de l'équipe de France, mais quand il vous manque Verratti, Tonali, Pellegrini, Immobile, Chiesa, Spinazzola, Immobile, Berardi, Politano, Zaniolo, Florenzi. Bon, ça fait beaucoup, donc forcément il y a encore beaucoup de jeunes joueurs qu'on retrouvera peut-être pas dans les années ou dans les mois à venir au sein de la Nationale quand tout le monde sera un petit peu de retour. Mais c'est une Italie qui retrouve des couleurs après 3 bons matchs sur 4, souvenez-vous, lors de la phase de juin, de la Ligue des Nations, les 4 premiers matchs. Là, il y a eu la victoire 1-0 contre l'Angleterre, on verra ce soir contre la Hongrie, mais on pourrait chercher quasiment ce qui a changé, mais en fait, rien n'a changé depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on est sur une progression linéaire avec un Roberto Mancini qui continue son travail de fond pour... tout simplement pour remettre l'Italie au niveau, parce que l'Italie n'était clairement plus au niveau. Tout simplement, en 2017, l'Italie n'existait quasiment plus. Donc, il a repris un très gros chantier. Très sincèrement, la victoire à l'Euro 2021, je sais jamais comment il faut dire, mais c'était très inattendu et ça arrivait beaucoup trop tôt par rapport au cahier des charges quasiment qui a été fixé à Roberto Mancini. Mais après, ils vont pas s'en priver. Le travail de fond, c'est les thèses de joueurs. Tu l'as dit, Nico, le groupe est très large, il l'a pas encore resserré. Il a beaucoup de courage, notre ami Mancini, parce qu'il a été chercher des joueurs en série B, parce qu'il a été chercher des joueurs qui jouaient en Suisse. Je pense à Gnonto qui joue à Zurich la saison passée. Certains pouvaient s'en moquer dans la presse italienne en disant mais qu'est-ce qu'il va nous chercher ces joueurs-là? Et puis les bonnes prestations aidant, on s'est dit peut-être qu'il y connaît quelque chose au football, Roberto Mancini. Et certes le réservoir n'est évidemment pas celui de l'Italie ou de la France ou de l'Angleterre, comme je le disais tout à l'heure dans le premier débat sur l'Angleterre, mais il n'est pas non plus très réduit ce réservoir. Il suffit de voir la liste des blessés que je vous ai donné juste avant, et on a une Italie qui reste compétitive, alors pas sur des immenses matchs, mais qui reste quand même compétitive. Donc l'ambiance de catastrophisme après la non-qualification à la Coupe du Monde, qui voulait nous faire croire que l'Italie c'était devenu Malte et que il y avait aucun bon joueur dans cette sélection et que c'était une catastrophe absolue. Oui, la Coupe du Monde, c'est un énorme échec, et j'insiste vraiment, c'est un énorme échec de ne pas aller à la Coupe du Monde, d'autant plus que c'est la deuxième fois consécutive. Mais le parcours entre l'échec de 2017 et le parcours en 2022 est très différent. Le travail qui a été fait en amont est très différent. Les conséquences pour le futur sont aussi différentes, parce qu'on voit que malgré cet échec-là, Mancini ne repart pas d'une page blanche cette fois-ci, comme il avait dû repartir après l'échec de 2017. Donc voilà, et on peut juste rappeler quelques faits pour juger du travail de Mancini. Évidemment, il y a l'échec de la Coupe du Monde qui parfois biaise un peu tout. Et encore, il faudrait rappeler les circonstances, j'ai pas envie de les rappeler, mais les pénaltys ratés contre la Suisse, etc. Qui...
Pour la 75 fois, la fille.
Mon cher Polo, exactement, oui, enfin, mais c'est oui, vrai mais que.
C'est pas qu'une histoire de pénalty, mon cher Johan.
Quelque part, parce que t'as deux matchs où t'as un pénalty, et ce pénalty t'envoie la Coupe du Monde. Donc sur deux matchs, ça joue quand même beaucoup. Et juste quand même, on a sur le cycle de 2 années, là, qui est toujours en cours. On a comme une Italie qui termine premier de son groupe de la Ligue des Nations précédente et invaincu, qui finit 3e du Final Four après avoir battu la Belgique lors de la petite finale et avoir perdu contre l'Espagne en demi-finale.
C'est ça.
37 matchs invaincus, vainqueur de l'Euro 2020, 2e de son groupe de la Ligue des Nations actuelle dans un groupe avec l'Allemagne et l'Angleterre. On n'est pas en train de parler de l'Autriche, hein, de l'Allemagne et de l'Angleterre, et encore en lice pour se qualifier pour le Final Four, et on verra le match ce soir. Donc ça va, en termes de reconstruction par rapport à la page blanche de départ, ça va, le travail il est fait, il est bien fait, et il y a un traumatisme au milieu, mais ils vont s'en relever. Il n'y a pas de problème.
Tiens, Mancini, donc, qui a lancé un débat, je vous entends là-dessus également, Fred, Julien et Polo. Johan, il dit en conférence de presse après la victoire 1-0 face à l'Angleterre, les joueurs doivent aimer un peu plus leur sélection. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Mais en fait, c'est ce que beaucoup de sélectionneurs constatent. C'est pas simplement Roberto Mancini, sauf que lui, il a un peu verbalisé. Il y a des joueurs qui renoncent à des convocations en sélection nationale pour ce que certains sélectionneurs estiment être des petites blessures. En gros, des joueurs qui veulent pas serrer les dents pour des matchs importants et jouer avec la sélection nationale parce qu'ils estiment que le club, c'est le plus important. Et on avait eu des exemples en juin avec les joueurs de la Lazio, Zaccagni et Lazzari qui avaient quitté Coverciano.
Oui.
Et en interne, on se demande encore pourquoi. Il y a eu des cas précédents, déjà sous Antonio Conte. Ça fait pas si longtemps que ça, d'ailleurs, que l'Italie a instauré la visite obligatoire pour les joueurs. Parce qu'avant, il suffisait de dire « Bon, bah, je suis blessé, je viens pas ». Ça fait qu'une quinzaine d'années, je crois, que ça a été instauré, cette visite, ce contrôle obligatoire en sélection pour faire constater les blessures. Donc il y a cette espèce de rengaine habituelle de bon bah il fait pas trop d'efforts pour venir défendre le maillot de la nationale et mais Antonio Conte s'en plaignait, Marcello Lippi s'en plaignait, Roberto Mancini s'en plaint, il y a d'autres sélectionneurs qui s'en plaignent aussi plus ou moins en off ou en on.
Les intérêts notamment financiers des clubs qui payent les salaires des joueurs passent au-dessus parfois, en tout cas sur les matchs de prépa ou de qualif, au-dessus de la sélection.
Oui, je comprends la réflexion, mais là aujourd'hui on a deux mois d'un mondial. Par exemple, prenons le cas de Karim Benzema, qui est blessé avec le Real.
Mais là, c'est une blessure sérieuse, Fredo.
Oui, non, mais
il n'entre pas dans le sujet.
Non, mais j'explique. Il était tout juste pour jouer le derby. Il aurait pu forcer pour jouer le derby. Carlo Ancelotti l'a pas fait jouer. Et Carlo avait dit, s'il joue pas le derby, il ira pas avec l'équipe de France. Mais c'est normal. À deux mois d'un mondial, quel intérêt, ni pour Benzema, ni pour l'équipe de France, ni pour le Real, personne n'a intérêt à que Benzema, par exemple, se blesse plus. Et moi, je trouve que même un petit bobo en ce moment, on va pas prendre de risque, mais n'importe quel joueur, à deux mois d'un mondial. C'est pas le cas de l'Italie. Mais moi, je peux comprendre qu'on fasse très attention aujourd'hui, avec tous les matchs qui vont, il y a un calendrier de folie, là, au mois d'octobre. Et c'est normal de pas prendre de risques. Enfin, moi, ça me paraît logique. Après, je pense pas que ce soit une question d'amour du maillot. Je pense que t'as pas envie de manquer un mondial. Par contre, manquer un match de la Ligue des Nations, je peux comprendre un joueur qui se pose des questions, quoi.
Mancini, un peu parano, les gars. Julien ou Polo, vous avez un avis sur le sujet?
Oui, moi j'ai pas ce problème à moi.
T'as pas ce problème,
Polo,
toi.
Mais moi, non.
Non, en fait, le problème, il s'appelle le calendrier.
Ah ouais.
C'est-à-dire que, il y a une vingtaine d'années où Lyonnais avait dit quelque chose qui me semblait un peu intéressant, c'est que lui, qui est très très libéral, avait dit, il pensait en fait que les équipes nationales allaient disparaître. Et je pense qu'on a fait énormément de progrès dans les constructions des compétitions pour les clubs, qu'est-ce qu'il faut faire, y compris au niveau du professionnalisme et tout ça. Et je pense peut-être que nous avons un manque de réflexion sur les équipes nationales, et j'ai envie de dire, alors c'est un gros mot que je vais dire, le produit équipe nationale et comment motiver les joueurs, c'est-à-dire est-ce qu'il faut les faire en même temps que les clubs, est-ce qu'il faut avoir des plages particulières, etc. C'est-à-dire moi je suis pas un opposant à la Ligue des Nations ou aux qualifications pour l'Euro et le Mondial, mais je pense que les deux, il y a une compétition de trop. Et ça, c'est compliqué, surtout en ce moment, là, on en parlait avec Fred encore ce week-end, les clubs européens vont jouer 13 matchs en 6 semaines. Là. Donc c'est complètement fou. Déjà, tu as intérêt à avoir un effectif pour pouvoir en club faire des choses, mais il est bien évident que les matchs ne sont pas intéressants. Et ce soir, je trouve très dommageable qu'on ait un match en bois, parce que ça va rien apporter à part l'orgueil des joueurs, entre l'Angleterre et l'Allemagne. Parce que c'est quand même une rencontre historique, c'est quelque chose, c'est le derby du Nord, c'est un truc assez théoriquement qu'on devrait le vendre d'une façon extraordinaire. Et on est en train de le banaliser comme on a banalisé, par exemple, Pays-Bas-Allemagne, ou à l'inverse, et je prends toujours cet exemple, où les deux plus grandes nations du foot en Coupe du Monde, qui sont le Brésil et l'Allemagne, ne se rencontrent quasiment jamais, seulement en 2002 et 2014, alors qu'il y a des gens qui nous disent, nous feraient comprendre qu'il faut, pour des raisons financières, que le Brésil et l'Allemagne s'affrontent chaque année. Ça, c'est un truc qui, moi, me m'horripile. Et je pense que la question du calendrier et de, encore une fois, je vais dire un gros mot, le produit équipe nationale doit être réfléchi d'une façon très, très importante par les fédérations, évidemment, et non pas juste être à côté des clubs, etc.
Oui, mais Polo, il y a un organisme qui s'appelle la FIFA.
Ouais.
C'est bien, OK. Hein. Et qu'est-ce que crée la FIFA, le mondial des clubs, à 32?
Bien sûr. Mais bien
sûr. La FIFA est en train de créer elle-même
mais ils sont en train de s'enterrer.
Un concurrent énorme pour son mondial.
Mais ils sont en train de se tuer, ils se tirent des balles dans le pied à longueur de temps. Il y a un moment, ça va exploser. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des compétitions, y compris la Confed, les Coupes des Confédérations à l'époque et tout ça. Non, il y a un moment, ça va exploser parce que les gens vont en avoir ras-le-bol. Les gens, ils vont même plus s'intéresser à l'histoire des clubs, etc. Je dis toujours ça, cet exemple. L'Allemagne a dominé le foot des nations pendant des années avec le Brésil. Et il y a une bête noire. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les statistiques, mathématiques, tout ce que tu veux. L'Allemagne, elle est là. Et il y a une bête noire, c'est l'Italie. Mais c'est mystique. Il n'y a pas d'explication à ça. C'est un truc extraordinaire. Moi, je trouve que c'est la même chose que quand le Brésil et l'Allemagne ne se rencontrent jamais. C'est comme si Federer et Nadal jouaient à chaque fois les tournois de Grand Chelem et ne s'affrontaient pas parce qu'il y en a un qui chutait juste avant de se rencontrer. C'est un truc et moi, je trouve ça, encore une fois, c'est du mysticisme pour moi. Et on veut toujours tenter d'écrire l'histoire de telle façon qu'elle doit profiter à tout le monde et notamment à ceux qui sont de l'oseille. Moi, je suis pas d'accord avec cette évolution du football qui date pas de maintenant, évidemment, mais je crois qu'il y a une vraie révolution à faire.
Qui va s'amplifier dans les prochaines années, certainement.
Le seul moyen d'éviter ce que dit Mancini, c'est aussi de plus séparer, c'est ce que tu as dit, Polo. C'est-à-dire que, par exemple, la sélection peut venir après toutes les compétitions de club et réserver un mois et demi, juste pour les compétitions de sélection, après les compétitions de club. Mais arrêter d'entremêler les deux pour multiplier les voyages.
Le problème, c'est que ça fait la dévise sur
la Coupe Davis. Les gars, on va prolonger le débat là-dessus, sur les calendriers, sur les compétitions, l'enchaînement des compétitions avec Polo, Fred, Julien et Johan. Vous écoutez RMC Génération After. Spécial Drôle de Dame, on revient dans moins de deux minutes. Reste avec nous, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 20h45, Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Pour nous appeler au 32-16 pour débattre avec les drôles de dames. On parlait du calendrier infernal, des rythmes accélérés. On disait tout à l'heure, 13 matchs, tu disais, Polo, en combien de temps?
Pour l'Allemagne, oui, pour les équipes européennes qui sont encore qualifiées pour la Coupe d'Allemagne, ça va être 13 matchs en 6 semaines.
Alors c'est intéressant parce que le syndicat international des joueurs, la FIFPro, avait alerté déjà en mai dernier. On connaissait déjà le calendrier infernal qui allait venir avec ce mondial en plein hiver, avec une enquête à l'appui intitulée « Nous sommes des athlètes, pas des machines ». Dans l'enquête, il ressortait notamment que 41% des joueurs ont déjà enchaîné au moins une fois 10 matchs d'affilée sans jamais avoir plus de 4 jours de repos entre deux rencontres depuis 2018. Ce calendrier qui a tendance à s'intensifier année après année, on peut en parler, hein, avec une guerre entre deux institutions, deux instances, oui. L'UEFA et la FIFA, qui chacun veut organiser des compétitions, propose chaque année toujours de nouvelles moutures, de nouveaux formats.
C'est simple, l'UEFA qui crée la Conférence League et la FIFA qui veut créer le Mondial des clubs.
Bon, à l'arrivée, l'équipe de France, on en a parlé hier soir dans l'after, hein, 15 joueurs absents du groupe bleu pour la fin des nations. Chez toi en Allemagne, c'est le cas aussi, mon cher Polo? Beaucoup d'absents?
Non, pas trop. Il y a eu le cas des Covid, il n'y a eu pas le Covid. Il y a eu des petits blessés, des petites choses comme ça, mais il n'y a pas de grands absents dans le 11 de départ. Mais en fait, c'est plus les autres sélections. Par exemple, Leverkusen va avoir à la rentrée un calendrier démentiel, et notamment à la fin de semaine, ils vont au Bayern. Ben, Patrick Schick est touché. Donc voilà, c'est des choses, c'est super important quand tu perds ton 9. Qui t'a mis 24 buts l'année dernière dans le championnat. Donc ça, c'est compliqué, c'est des petites choses comme ça. Mais moi, le vrai problème, ça s'appelle le calendrier. On peut après être d'accord sur le modus operandi des compétitions, le pourquoi, le comment, le ceci. Mais il y a une question de calendrier. Il faut aussi réfléchir au climat. Quand je dis au climat, c'est le temps qu'il fait. Moi, je ne veux pas avoir de match en hiver, en novembre, décembre, janvier. Je veux dire, au vélo, ils arrêtent. Ils arrêtent pendant quasiment 3 mois. Et ben, pourquoi est-ce qu'au foot, on ne ferait pas la même chose?
En Allemagne, ils arrêtent.
Oui, mais là, ils arrêtent. En plus, ils vont faire une vraie longue trêve. Et j'ai presque l'impression d'être revenu dans les années 80, là, tu vois. Mais ils arrêtaient de moins en moins. C'est-à-dire que vu ce qu'on peut faire avec aujourd'hui dans les stades, au niveau des entraînements, vu qu'on peut se déplacer un peu partout, etc., la trêve, elle était limitée de plus en plus à 5 semaines. Mais c'était pendant la période du Covid, c'était ridicule parce qu'on se mettait à jouer en janvier où il y avait de la neige de partout. Puis encore une fois, on n'est pas à Alicante, quoi.
Mais quelles sont les solutions finalement? Enfin, je veux bien, mais qui va un jour, à part la FIFPro, hein, qui se fait entendre, pas du tout, personne réagit.
Mais non, parce que les joueurs gagnent plus d'argent par la FIFPro. Mais même les joueurs, ils se plaignent. Mais la multiplication des compétitions font que les gars, enfin, je veux dire, le budget global du foot est plus élevé et eux gagnent plus d'argent. Je veux dire, les salaires aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a 20 ans, mais ça n'a plus rien à voir. Donc les joueurs participent avec l'inflation salariale, participent à ça aussi.
Renaud est avec nous, 32-16, il va en parler justement. Salut Renaud.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toute l'équipe, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Et salut, bonsoir Renaud. À Alexandre-Frédéric Hermel, le meilleur Français expatrié en Espagne est Apollo Breitner, évidemment aussi.
Expatrié mais rapatrié en France quand même, hein, il faut être très honnête.
Voilà, hein. Exactement.
D'accord.
Ouais, mais tu sais, celui qui aura fait 30 ans d'Espagne comme moi qui veut piquer la place, qui vienne. Hein. 30 ans d'Espagne, il faut présenter sur le CV.
J'ai des candidats quand même, t'inquiète pas. Tous les soirs, j'en reçois des lettres.
Ah ben je sais. Mais qui passe 30 ans d'Espagne avant. Il y en a qui ont essayé.
Renaud.
Ils ont eu des problèmes.
Oui. Donne la parole. Tu voulais parler notamment du football de sélection.
Un débat absolument passionnant. Là, je suis absolument d'accord avec nos deux drôles de dames. Entre guillemets, je pense que le football de club pour moi, hein, et c'est peut-être parce que je suis un peu vieux, hein, j'ai 51 ans, je trouve que le football de club depuis 30 ans ou 40 ans a pris vraiment trop de place par rapport au football de sélection. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Bon, effectivement, il y a l'argent là. Ce que vous venez de dire, c'est vraiment extrêmement pertinent et c'est tout à fait juste. Il y a vraiment ce problème-là. Je trouve qu'il y a trop de compétition de clubs. Je pense que la réforme de la Ligue des Champions, ça a fini par tout achever. La conférence Europa, Ligue Europa, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Surtout pour les clubs français qui prennent quand même des pilules, hein, parenthèse fermée. Et moi, je n'étais pas contre la Ligue des Nations parce qu'on se plaignait à juste titre qu'il y avait des matchs amicaux qui n'avaient aucun intérêt. Donc, moi, j'ai pas été totalement contre. Bien au contraire, quand la Ligue des Nations a été créée, ça permettait de faire des matchs avec un intérêt en termes de compétition. Il y a quelques mois de ça, vous vous souvenez, Arsène Wenger avait proposé une Coupe du Monde tous les deux ans. J'ai trouvé ça totalement ridicule parce qu'il faut que la Coupe du Monde reste quelque chose de rare.
Oui.
Parce que quand il y a de la rareté et
bah, c'est
là, vous allez susciter du désir et de l'envie.
Bah, oui.
La Coupe du Monde, ça doit rester un événement, ça ne peut pas être biannuel. Donc moi, je suis très attaché à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et quand on aime vraiment le football, eh bien, on s'intéresse aussi en même temps aux petites nations. Parce que je sais qu'il y a des gens chez vous, sur RMC, je pense à Kevin Diaz qui aime beaucoup le championnat néerlandais, qui est beaucoup moins médiatique que les autres gros championnats. Mais on a besoin de gens comme ça, des gens qui sont passionnés. Je pense à Nicolas Cougaud de nos amis de l'Union opposée, etc., qui parlent d'autres footballs. Et moi, je trouve ça intéressant. Et je suis désolé, quand on aime le football, ben, on va vouloir regarder la Coupe du Monde, on va vouloir tout regarder, on va vouloir regarder toutes les équipes. Et parfois, on peut aussi avoir des surprises. Vous l'évoquiez à juste titre, la Hongrie, qui n'est pas vraiment une surprise, parce qu'effectivement, comme le disait Polo tout à l'heure, elle a quand même fait une Ligue des Nations, elle a joué quand même des matchs, elle a plutôt été tout à fait estimable. Mais voilà, c'est intéressant, on voit la Hongrie qui bat l'Allemagne, etc., etc. En Ligue des Champions, vous n'avez pas de surprise. On ne verrait pas un jour l'Atalanta Bergen gagner la Ligue des Champions, parce qu'il faut que ce soit toujours les mêmes, les gros. Mais à la fin, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un risque de lassitude, parce que voir un sempiternel Barça-Bayern, moi je comprends.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Il nous dit oui, mais c'est le football spectacle, c'est les meilleurs joueurs, mais parfois, je suis désolé, moi la finale de Ligue des Champions, bah, je mets de côté les événements qui ont eu lieu au Stade de France, mais ce Liverpool-Real Madrid, il va pas rester dans la légende de la Ligue des Champions. C'est pas le Milan-Liverpool de 2005, vous voyez ce que je veux dire. Donc à chaque fois, on nous vend du rêve, des produits avec les meilleurs joueurs, et puis effectivement, l'augmentation du nombre de matchs entre les championnats, les coupes européennes, etc., etc., les joueurs sont vidés, ils sont fatigués, et moi je suis désolé, mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que de jouer pour son équipe nationale. Donc voilà ce que je voulais dire. Et après, je suis peut-être un petit peu minoritaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de génération, les jeunes, par exemple, on entend combien de fois on entend des auditeurs qui passent sur RMC ou même ailleurs qui vous disent « Voilà, moi j'habite à Brest ou à Lille, oui. Et je suis un supporter de la Juve, je suis un supporter de Manchester City. » Voilà. Bon, après, voilà, effectivement...
De mondialisation du football également.
Bah, nous, les drôles de dames, on a fait beaucoup de mal, parce qu'on a fait découvrir les championnats et les équipes.
Vraiment, c'est pas que du mal,
mon cher. Il faut vraiment défendre le football de sélection, parce que c'est aussi des moments magiques, quoi.
Mais c'est une réaction.
Voilà.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Renaud sur la rareté. Le problème, c'est que avant, on attendait un gros match, on connaissait le calendrier par cœur, etc. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder au-delà d'une semaine, parce qu'il y a tellement de matchs à retenir, en fait, que la mémoire ne peut pas retenir tous les matchs qu'il y a. Donc oui, il y a trop de matchs et ça. De toute façon, c'est pas avant. On n'imaginait pas jouer le lundi soir. Maintenant, tous les championnats ont un match le lundi soir. Ouais, franchement, il y a quoi ? Il y a 10 ans, on jouait pas le lundi soir.
Dites-vous qu'il y aura encore plus de matchs, c'est pas 2024 et la réforme avec des champions.
Bien sûr. Non, mais le lundi avant, les gars, avant, vous aviez des matchs le lundi soir il y a 10 ans ?
Bah, j'ai jamais eu de match le lundi soir. Ils ont été supprimés en Allemagne parce que les supporters le voulaient pas.
Bah, ils ont raison.
Mais
non, il y a un truc intéressant.
Vas-y,
Julien.
Non, juste parce que la Première Ligue a fait une offre à la Football League et donc le.
qui représente les championnats de deuxième division, troisième division, quatrième division professionnelle ici, en disant voilà, on va vous donner 200 millions d'euros par saison, mais on veut plus la coupe de, on veut plus de replay, donc les matchs buts en Coupe d'Angleterre. Donc quand il y a un match nul, bah vous, au lieu d'aller au penalty, vous refaites un match trois jours plus tard ou une semaine plus tard, ouais, sur le de dans sur le terrain de l'équipe visiteuse, quoi. Donc ça, on oublie. Et puis en Coupe de la Ligue, parce que nous on a encore la Coupe de la Ligue malheureusement, et ben on peut avoir le choix, on peut décider de faire jouer notre équipe des moins de 21 ans par exemple. On n'est pas obligé de faire jouer notre équipe A, mais en contrepartie on vous donne de l'argent parce que par rapport au manque à gagner du fait que les gros clubs, notamment en Coupe d'Europe, ne mettront pas leurs superstars, parce que nous on en a marre, il y a trop de matchs, on veut plus jouer ces matchs d'appui en Coupe d'Angleterre, on trouve ça ridicule, la Coupe de la Ligue on trouve ça ridicule aussi, et donc voilà. Et donc, je trouve que finalement peut-être que c'est l'argent aussi qui peut résoudre un peu une partie du problème.
Intéressant, ils utilisent le calendrier surchargé pour redistribuer de l'argent.
Je sais pas, parce que c'est vrai que le match replay c'est un truc de fou quand même, qu'il n'y ait pas de penalty.
C'est encore une aberration.
Polo, complètement.
Alors moi je suis un adversaire de la Super League, mais je suis pas un adversaire de la concentration dans le monde du football, parce que comme je viens du monde de l'entreprise, il y a un truc qui s'appelle la taille critique. Ça veut dire quoi la taille critique? C'est que on a aujourd'hui, je crois, 55 associations à l'UEFA. Or sur ces 55 associations, si tu prends les 10 plus gros pays en termes de population, tu as déjà 80% de la population européenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disait Renaud était très intéressant sur les petits pays, les ceci, cela. Mais sauf que tu ne peux pas avoir une véritable concurrence si tu es trois. Il y a un contre-exemple extraordinaire qui est la Croatie. Mais c'est la Croatie, c'est je sais plus, c'est quelques millions d'habitants, alors que l'Allemagne c'est 83. Donc tu ne peux pas être compétitif systématiquement. Par exemple, un UEFA 24, pour moi, c'est une absurdité parce que ça tue les qualifications. Ça tue complètement les qualifications, parce que quasiment, y compris les équipes qui peuvent être surprises dans un euro, vont se qualifier, et donc finalement, il n'y a plus de vraies qualifications qui sont intéressantes à voir. Il suffit de voir toutes les grosses nations. Quand on perd contre la Macédoine du Nord, c'est la fin des haricots, mais c'est surtout un contre-exemple qui arrive une fois tout sur les dernières qualifications européennes. Sur les 10 dernières années, je me suis jamais autant enquiquiné avec l'équipe d'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, elle est juste devenue championne du monde en 2014, elle n'a pas tout raflé. Donc, il y a un vrai problème de réflexion à ce niveau-là, c'est-à-dire que combien de clubs ou combien d'équipes doivent aller dans des grandes compétitions et non pas partir dans le gigantisme qu'on fait en ce moment, parce que en fait tu transfères un problème. Avant, je suis comme Fred, je suis dans les années 70, les qualifications, surtout quand on était la France et on n'était pas encore champion du monde, on sait ce que ça veut dire aller se balader dans les anciens pays de l'Est et ça, et perdre des matchs, etc.
C'était merveilleux.
Mais c'était merveilleux, mais parce on flippait.
En France de Michel Platini contre la Yougoslavie.
Et par exemple, on flippait dans tous les sens, oui. Mais au moins, au-delà du cas français, les qualifications voulaient dire quelque chose. Aujourd'hui,
mais les qualifications, c'était une compétition en elle-même.
Exactement.
Bien sûr.
Aujourd'hui,
chaque match.
Aujourd'hui, c'est comme si tu refaisais ton passeport ou ta carte d'identité, quoi.
Oui, l'Allemagne, ok, bon, les qualifications. Oui, voilà.
Oui, mais c'est un cas particulier. Mais entre temps, ils ont gagné l'euro. Donc, c'est une vraie réflexion à mener sur la taille qu'on veut avoir dans les championnats européens. Moi, je pense que 16, c'est un grand maximum, et non pas 24. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'encore une fois, on tue les qualifications complètement, et après, on se plaint que l'Allemagne doit aller je sais pas où pour jouer un match, il gagne 5-0, et il y a toujours un mec qui nous dit ah oui mais nous on est en train d'apprendre, mon gars, ouais c'est vrai, il y a 40 ans tu t'en prenais 8, là tu t'en prends plus.
Écoute,
5, ça va.
Au mondial suivant on va tuer également la phase de groupe du mondial, puisque
exactement,
les meilleurs troisièmes pourront basculer dans la phase, oui, suivante. Je veux remercier Renaud d'avoir fait le 32-16. Merci Renaud.
Merci à l'équipe, et très bonne fin de soirée à vous, et très très bonne émission, et puis merci à vous, c'est vous qui êtes les meilleurs sur le football. Toute radio confondue.
Merci à Renaud.
Et télé aussi, on peut le dire.
On prend avec plaisir. Bonne soirée à toi, Renaud. Dans un instant, les gars, le mondial au Qatar, on va en parler. Bon, beaucoup de débats, vous le suivez aussi, puisque vous êtes tous français autour de la table dans notre pays. La ministre des Sports en a parlé également ce week-end. La fédération a répondu à un communiqué d'Amnesty International. Et chez vous, comment ça se passe? Est-ce un débat brûlant également? On va en débattre dans Génération After, spécial Drôle de Dame sur RMC. 20h57, on revient dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose, soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou.
Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h02. Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet à mes côtés jusqu'à 22h. Gilbert et Daniel seront là à partir de 22h, bien sûr, pour l'After et l'actualité Ligue 1. Et parlons du Qatar. On en parle dans un instant du Mondial au Qatar avec les drôles de dames. Est-ce que ce débat fait débat, ce sujet fait débat également dans vos pays respectifs, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre? Chez nous, bien sûr, plus on avance vers le Mondial, plus les consciences s'éveillent, j'ai l'impression. En tout cas, se font entendre. On va en parler dans un instant. D'abord les directs, pour vous dire que dans vos matchs qui vous concernent d'ailleurs, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne, dernière journée de la Ligue des Nations, groupe 3, et 0-0 entre la Hongrie et l'Italie. Indirect également l'équipe de France Espoir qui est à Valenciennes, match amical face à la Belgique. Espoir sous les yeux de Jean Baumel. Salut Gibo.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous, salut les drôles de dames.
Salut mon ami.
C'est parti, salut Fred, c'est parti depuis 2 minutes 30. Bon, c'est un match amical, on rappelle que les deux équipes sont qualifiés hein, pour l'Euro qui se déroulera en Roumanie et Géorgie le 9 juin, du 9 juin au 2 juillet, donc là en 2023. Et il y a peut-être des espoirs qui vont peut-être retrouver dans la liste de Didier Deschamps. On pense à Wesley Fofana, entre autres. Il y aura peut-être des surprises hein, vu le nombre de blessés. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 0-0. Les Bleus qui ont fait un bon match d'ailleurs à Mika, ils ont gagné en Allemagne vendredi dernier avec un but de Guiri qui est titulaire. Devant, il y a aussi Kalimundo hein, qui n'a pas trop joué avec Rennes parce qu'il était blessé. Donc voilà, c'est une équipe. L'équipe d'espoir, franchement, qui a fière allure. On aura l'occasion, durant le direct, durant ce match, de je vous dire un petit peu toutes les infos concernant les joueurs titulaires, notamment en attaque, je vous ai dit, donc Kalimundo et Guiri. À noter aussi Sofiane Diop. Voilà, donc
c'est très Ligue 1 quand même, l'équipe de France Espoir, encore.
Hein. Bah écoute, franchement, quand tu
Busto,
vois.
Busto, Diop, Lefebvre, Kalimundo, Guiri, Laroussi. Kefren Thuram, Kakré.
C'est pas la Ligue 1, c'est Kouassi qui joue FC Séville. Non, franchement, même sur le banc, hein, t'as quand même Chotard, Merlin, Cherki, Ngoumou, Wai qui joue à Montpellier.
À tout à l'heure, Gibo, pour ce France Espoir, Belgique Espoir 0-0 après 5 minutes de jeu. Donc, messieurs, le mondial au Qatar, je le disais chez nous, la tenue de ce mondial dans un pays où les droits de l'homme sont régulièrement bafoués. Je suis gentil, est un sujet brûlant, vous allez me dire si le débat existe chez vous. D'abord, je rappelle que ce week-end, donc, Amnesty International, qui n'appelle pas, aussi c'est important de préciser, au boycott, a publié un communiqué dans lequel elle explique qu'elle allait soutenir le Danemark et non la France dans le match qui opposait les deux sélections hier soir. Amnesty regrette un silence assourdissant de la FFF, à l'inverse des Danois qui s'engagent dans la défense des droits humains. Réponse de la FFF hier, qui dit être agacée d'être stigmatisée et explique, je cite, « Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner et prétend créer un centre d'accueil pour les travailleurs immigrés et la création d'un fonds d'indemnisation. » On va travailler là-dessus et vérifier si c'est bien réel, bien sûr. Alors chez vous donc, est-ce un sujet de débat à moins de 2 mois du Mondial, Polo en Allemagne?
Oui, de plus en plus. Tu as dit que les consciences s'éveillent. Moi, je pense surtout qu'elles se réveillent. Le problème, c'est que je pense qu'elles se réveillent avec 12 ans de retard. C'est-à-dire que on a eu un débat ce week-end. Alors, si tu veux, tu viens d'expliquer comment Amnesty s'explique qu'ils soutiendront le Danemark par rapport à... Enfin, je trouve ça, pour moi, c'est des adolescents quand tu réponds comme ça. Les enjeux sont pas là, mais c'est pas grave. Si tu veux, il y a eu un truc ce week-end, c'est dans la fameuse émission Doppelpass, dont je vous en parle assez souvent, et ben, où Lyonnais n'était pas invité. Il y avait Andreas Reti, qui est notamment un manager bien connu en Allemagne et ancien de la Ligue allemande de football, qui lui évidemment est fondamentalement anti-Qatar, on va dire ça d'une façon très simple, etc. Et Uli Hoeneß, il a pris son numéro de téléphone et il a appelé l'émission pour passer en direct. Donc ça fait grand débat en Allemagne. Il a eu des propos qui sont un petit peu délicats à comprendre, mais il se défend dans le sens où lui dit que de toute façon il faut commercer avec eux. Donc, dans ce sens-là, il fait, j'ai envie de dire, il prend l'axiome du général de Gaulle. Quoi. Les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Et l'intérêt d'avoir le Qatar, c'est d'avoir du gaz, etc.
C'est donc, la réalité. Voilà. Surtout en Allemagne, hein, vu leur dépendance au gaz.
Oui, mais au-delà de ça, c'est très intéressant. Le problème, pour moi, en Allemagne, donc, il y a des organisations qui sont en train de s'organiser justement pour essayer de faire que le boycott arrive, ou qu'on prennent des décisions, etc. Il y a des anciens joueurs comme Philippe Lahm qui s'expriment. C'est marrant, mais lorsqu'il était capitaine de la sélection allemande, pour moi, je ne l'ai jamais vraiment entendu prendre fête et partie ou fête et cause pour des causes particulières. Là,
il a le droit, attends, excuse-moi, il a le droit, oui, en mûrissant, en sortant non, mais du truc.
Je dis pas le contraire.
On a le droit d'évoluer dans la vie et d'être non, simplement.
Mais j'ai pas de souci avec ça, mais si tu veux, j'ai l'impression que ça sort du bois un petit peu comme ça au bon moment. Moi, je suis droit dans mes bottes avec ce niveau-là. Je voulais jamais que le Qatar achète le PSG, donc ça fait 12 ans que je me suis
fait engueuler par tout le monde, quasiment tous les journalistes français de Navarre, comme quoi j'étais le seul. Moi, j'ai décidé de plus aller au Parc des Princes à cause de ça, sauf lorsque RMC m'y envoyait parce qu'on jouait contre une équipe, contre le PSG, jouait contre une équipe allemande, etc. Mais je laisse les journalistes qui ont passé leur temps à m'engueuler à se regarder dans la glace. La deuxième chose qui m'intéresse, si tu veux, c'est que on se réveille quand même très très tard. Et le problème du Qatar, je vais essayer de faire un petit peu d'humour, c'est que c'est Krypton le Qatar. C'est Superman, c'est la planète de Superman. C'est-à-dire dans 100 ans, il n'y a plus de gaz. Donc le problème, c'est que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ils doivent investir autre part pour créer d'autres actifs. Donc pour moi, la question, elle est là. C'est pas le fait de travailler avec le Qatar. Ensuite, on va pas découvrir à l'époque où on a donné la Coupe du Monde au Qatar que c'est magouille et compagnie à la FIFA. L'Allemagne en est même elle-même à la Coupe du Monde 2006 est bien embêtée en ce moment par rapport à ce qui se passe. Et c'est comme ça depuis des générations et des générations. Donc moi, si tu veux, en ce moment, c'est très intéressant de voir les pour et les contre, et je cherche les arguments, mais je trouve qu'on est souvent dans un... j'ai l'impression qu'on est dans un baquet de sable en train de s'expliquer « non, c'est pas beau, oui, c'est beau, non, c'est pas ceci, c'est cela ». Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est peut-être le départ à une véritable réflexion à ce qu'on veut dans le monde du football demain, tout en sachant, et là, moi, je laisse la question ouverte, je suis pas sûr que le football soit... ce soit le rôle du football ou des joueurs de football...
Ah ben justement.
Des joueurs de football d'être responsables de la politique d'un État, par exemple.
Fred, en Espagne.
Eh ben malheureusement non. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas. Il n'y a pas de débat.
Vraiment.
On en parle. On parle par exemple des actions des autres. On parle quand Lahm s'est exprimé. On en a parlé en Espagne. C'est-à-dire que la presse espagnole.
Je rappelle que Philippe Lahm, qui était également directeur de l'Euro 2024 en Allemagne, refuse d'aller au Qatar, car il ne cautionne pas notamment la politique en termes de droits humains, droits des travailleurs, conditions des femmes, mais qui regardait quand même les matchs devant la télé. C'est ce qu'il a dit. Ouais.
Et donc on avait relayé par exemple la pancarte qu'avaient montré les joueurs norvégiens, par exemple.
Les Danois aussi.
Les Danois aussi. Voilà. Mais on relaie, mais il n'y a pas de débat de fond. En Espagne, tu n'as pas de grande voix du sport espagnol qui se soit élevée par rapport à ça. Après,
nous on a Cantona en France, par exemple.
Oui,
il l'a fait.
Enfin Cantona. Au moins, les Espagnols, je les trouve honnêtes par rapport à une chose. Les Espagnols n'ont jamais mis le genou à terre pour Black Lives Matter.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut pas les accuser, ils se mêlent pas de ces choses-là. Peut-être qu'on peut leur reprocher de pas se mêler, mais enfin, ils n'ont pas d'indignation à géométrie variable. Ils s'indigneront jamais. Au moins, c'est ça. Parce que moi, quand je vois les joueurs français qui mettaient leurs genoux à terre, pour Black Lives Matter, très bien, ils ont le droit, mais qui n'ont jamais rien fait par rapport au Qatar et aux esclaves morts en construisant des stades sur lesquels ils vont jouer. Donc, les Espagnols, non, c'est pas vraiment un sujet. On traite l'information, mais il n'y a pas de débat comme il peut y avoir chez nous.
Johan, toi, en Italie.
Ben, on parle assez peu de cette thématique du boycott, comme Fred. Il y a assez peu de prise de position à ce sujet-là. Alors, c'est un cas un peu particulier déjà parce que autant en conférence de presse avec Didier Deschamps, il y a des journalistes français qui lui posent la question sur les actions éventuelles à mener au Qatar pendant la Coupe du Monde, si les joueurs auront la liberté d'exprimer leurs sentiments, etc. Bon, bah, l'Italie n'est pas la Coupe du Monde. Donc, déjà, il y a toute une partie de questions-réponses d'implication des acteurs principaux qui n'a pas lieu en Italie. Alors, évidemment, comme Fred, on a relié le travail du Guardian, d'Amnesty International, etc. La volonté de certains pays nordiques de boycotter le mondial. On n'a pas de Cantona, on n'a pas de Philippe Lahm qui ont pris des positions fermes sur notamment le boycott et qui l'ont partagé à de multiples reprises et pas simplement une seule fois. Je rappelle qu'en Italie, on organise la Supercoupe d'Italie depuis plusieurs années, hors Covid, en Arabie Saoudite, et que d'ailleurs des discussions sont en cours pour un nouveau contrat plus rémunérateur avec justement mon cher Fredo, un format à l'espagnol.
Demi-finale,
finale. Dire que
c'est ça.
Ouais, c'est ça. Demi-finale, finale. On peut pas dire que l'Arabie Saoudite soit un exemple de régime où l'humain est au cœur des considérations. On va le dire comme ça. C'est difficile ce sujet parce que il y a pas de solution miracle, boycotter, pas boycotter, y aller et dire,
regarder, pas regarder.
C'est difficile parce que moi je comprends ceux qui appellent au boycott et qui vont boycotter la compétition à leur propre échelle, c'est-à-dire personne lambda qui va pas regarder la Coupe du Monde par exemple. Et je comprends parce qu'en fait ils se disent que l'argument la Coupe du Monde va faire avancer les choses au Qatar.
Maintenant, c'est plus recevable. Parce qu'on a bien vu que les conditions des travailleurs sont catastrophiques, que ceux qui avaient, souvenez-vous, manifesté récemment.
Il y a quelques sensibles évolutions, Johan.
Oui, on a fait un pas de 10 cm.
Un salaire
c'est bien,
minimum.
Bravo.
Effectivement.
Maintenant, les esclaves, ils n'ont plus 1 euro, ils ont 2 euros. C'est bien.
Oui,
bravo.
C'est ça.
Et quand ils meurent, c'est leur famille, elle doit toujours
repatrier
les corps.
Certains te diront, c'est déjà ça par rapport aux conditions de travail avant d'attribuer.
Pour moi, c'est pas un argument.
Mais ça reste de l'esclavage. Donc,
Et la médiatisation de la réalité de ce qui s'est passé sur les chantiers, ça n'a rien changé. Il y a eu des dizaines de milliers d'articles, reportages, messages dans la presse, éditos, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, à destination des vieux, des jeunes, de ceux qui aiment le foot, ceux qui n'aiment pas le foot, etc. Ça n'a strictement rien changé.
C'est pas ce que dit Amnesty International quand même. Ils expliquent quand même qu'il y a une évolution depuis le travail.
Ouais, moi je vois qu'il y a
les consciences qui s'expriment.
On avait
reçu qu'il y a des travailleurs qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire et qui ont été expulsés du pays.
Et qui n'ont pas touché leur 6 mois de salaire.
Exactement. C'est en ça que c'est difficile de prendre position parce que même moi qui suis un passionné de foot, c'est une vraie contradiction personnelle en fait. C'est que oui, on adore le foot. Bah oui, l'esclavagisme moderne est inacceptable. Et pour autant, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, tout simplement? Et moi, mon truc là-dessus, c'est que comme j'arrive pas à prendre position, je me dis que l'idée, c'est peut-être pas forcément de prendre parti pour le boycott ou pas boycotter, etc., etc., parce que de toute façon, c'est trop tard. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler pour au moins développer une conscience critique de cette situation
mais
qui a été créée.
Et tu sais, moi, franchement, je suis pas un grand fan d'Amnesty, mais on avait reçu ici dans l'after Lola Schulman, qui est la responsable au sein de
communication internationale.
Et Lola Schulman expliquait bien, on va pas changer les situations, mais on demande simplement aux joueurs de montrer qu'ils ont conscience de ce qui se passe. Donc, et moi, j'aime beaucoup ça, parce que j'insiste là-dessus sur Black Lives Matter, qui concernait un truc horrible qui s'est passé aux États-Unis.
Et un état permanent aux États-Unis.
Ouais, aux États-Unis. Mais les joueurs n'ont pas de rapport
avec la
population
en général.
Oui, bien sûr, oui, parce que c'était Floyd. Mais les joueurs n'avaient pas de contact direct avec les États-Unis. Là, les joueurs vont jouer au football sur des charniers où sont morts des esclaves. Donc là, il y a un truc direct, ils ne disent rien.
Oui.
Et c'est ça. Moi, ce qui me choque, c'est cet engouement extraordinaire, ce suivisme sur Black Lives Matter. Et là,
bon, les gars.
Là, c'est différent, Fredo, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que soit tu prends parti pour tout, soit tu te tais à jamais. Et ça, moi, je trouve pas ça normal.
On va faire une pause. Il y a beaucoup de messages, évidemment, sur Direct Studio. Certains nous disent, mais oui, mais le mondial aux Russie, vous avez rien dit, ou très peu. Également, le mondial américain à venir, États-Unis, dans quelques années, pareil.
Que je sache, il n'y a pas d'esclaves qui construisent des stades aux États-Unis.
Dans un instant, je veux quand même savoir ce qui se dit en Angleterre, avec Julien Laurence qui nous dira ça. Cédric sera là au 32-16 avec nous également pour en parler. Il est ouvert, bien sur le 32-16, Max est là au standard 21h15, vous écoutez Génération After. D'abord les directs, toujours 0-0 entre 1-0 désormais pour l'Italie face à la Hongrie. Mon cher Johan, ça m'a échappé le buteur. Tu aimes le donner.
But de Raspadori sur une sortie de balle ratée des Hongrois et une interception de Gnonto qui allait buter sur le gardien et Raspadori a récupéré le ballon et a marqué.
Toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne après 30 minutes de jeu. Et les espoirs français face aux espoirs belges, Gibo à Valenciennes.
0-0 le quart d'heure de jeu, 7 à 8 000 spectateurs, ça c'est assez sympa comme match. Franchement, ça va d'un camp à l'autre. On voit notamment du côté belge un Jérémy Doku, le Rennais qui est très actif, très bon. Pour l'instant, même Goury est pas mal, mais ils ont du mal à vraiment se procurer la dernière occasion. Mais en tout cas, les intentions dans le jeu des deux côtés, c'est intéressant et c'est pas étonnant de les voir toutes les deux qualifiées pour l'Euro 2023.
Allez, dans moins d'une minute, Génération After, spécial Drôle de Dame revient sur RMC, 21h17. On parle du Qatar et cette Coupe du Monde qui se profile bien sûr dans moins de deux mois. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Juan Crochet, Fred Armel, on est ensemble jusqu'à 22h. RMC, 21h17, toujours 0-0 entre les Bleus, l'équipe de France Espoir et la Belgique Espoir. 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne en Ligue des Nations. 1-0 pour l'Italie sur la pelouse de la Hongrie. Raspadori, l'Italie qui est en train de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Pour la finale à 4, pardon messieurs. 1-0 donc pour l'Italie après 30 minutes de jeu. Julien, je me tourne vers toi également. On parlait des débats autour de ce mondial au Qatar, de plus en plus aigu à l'approche de l'événement. Est-ce qu'en Angleterre, c'est un sujet ou pas du tout, comme en Espagne et en Italie ?
Non, nous c'est un gros sujet, bien sûr. Ah. Mais nous c'est un sujet depuis le départ, hein, depuis que le Qatar a été choisi ou a été voté. Je sais même pas comment on dit. Rappelez-vous, c'est quand même en Angleterre qu'on avait fait les plus grosses enquêtes sur, toutes les magouilles et autour du choix. Du... Ouais. Exactement, et du Sunday Times aussi, tout ça. Donc encore plus autour des droits des travailleurs et de tout ce qui se passe sur les stades qui sont construits, forcément. Il y a une grosse pression mise sur la fédération anglaise depuis maintenant plusieurs mois pour qu'elle réagisse pour qu'elle agisse plutôt même. Ce qu'elle fait qu'à moitié finalement, un peu finalement comme tout le monde quoi. Je sais pas si elle aurait envie de faire plus, si elle pense ne pas pouvoir faire plus. Mais c'est vrai que par exemple cette semaine, elle a fait un grand communiqué en annonçant que les joueurs allaient rencontrer des travailleurs immigrés une fois au Qatar. Je vois pas trop à quoi ça va servir, mais voilà, qu'ils ont essayé qu'ils encouragent effectivement à ce que les conditions de travail s'améliorent. Tout ça, c'est bien beau, mais encore une fois, c'est que des mots et pas vraiment des actes. Il y a le brassard porté ce soir, par exemple, par Harry Kane, le fameux One Love, le brassard contre la discrimination, etc., etc. Mais encore une fois, qui sert à rien.
Il sera porté par l'Angleterre au Qatar, parce que la France.
Je crois que la FIFA a pas encore donné l'autorisation. Ah oui, donc oui. Je pense que les Anglais veulent le porter.
Oui, ils font partie de ces pays, les 6-7 pays européens qui veulent le porter. On est d'accord.
Mais par exemple, dans le communiqué de la fédération anglaise cette semaine, justement pour montrer un petit peu d'opposition au Qatar, il y a aucune déclaration de Gareth Southgate ou de Harry Kane, par exemple. Donc c'est la fédération elle-même. Mais si au moins tu avais la voix du sélectionneur en disant, bah voilà, on y va, mais il faut que les choses s'améliorent, il faut faire plus, mais y a rien. Encore une fois, donc c'est vrai que les Anglais sont très déçus par le manque d'action de leurs joueurs, de leurs sélectionneurs et de leur fédération.
Je vais accueillir Cédric au 32-16 qui nous a appelé. Salut Cédric.
Salut.
Bienvenue dans Génération After, Cédric.
Merci.
Alors, on t'écoute.
Ben moi, je voulais réagir par rapport à tout ça, en fait. Et moi, ce qui me fatigue un peu, c'est toute la démagogie qu'il y a autour de ce mondial. L'erreur, ça a été de leur donner dès le départ, en fait.
Bien sûr.
Pour le gaspillage de ressources qui va être monumental, pour la période aussi, parce que c'est pas une période c'est pas terrible quoi. Mais après les conditions des travailleurs, c'est dramatique, hein, je vous dis pas le contraire, c'est le nombre de morts, tout ça, on peut pas fermer les yeux sur ça, mais on n'a pas entendu autant de personnes quand c'était au Brésil, parce qu'au Brésil c'est le nombre de morts, c'était aussi
les personnes déplacées,
tout autant dramatique en fait.
Comme en Russie, les personnes déplacées, etc.
Oui, c'est pareil. La Russie en 2018, ils avaient annexé la Crimée depuis 4 ans. Personne en a parlé. En 2026, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont aussi une politique étrangère un peu spéciale.
Oui, mais il n'y a pas d'esclaves aux États-Unis. Il n'y a pas d'esclaves aux États-Unis.
Oui, d'accord. C'est vrai.
Mais
c'est quand même.
Oui. Bon, on peut parler de la condition de travail de vie des immigrés mexicains aux États-Unis.
On est d'accord. Mais elle sera jamais aussi horrible que celle d'un immigré du Soudan ou du Bangladesh au Qatar.
Ça, vas-y, Cédric.
Et donc oui, moi c'est ça qui me dérange un peu, c'est que en fait, j'ai l'impression que on a du mal avec les nouveaux riches, en fait. On n'aime pas que des peuples, des pays qui n'existait pas au niveau médiatique il y a 20 ans.
Le Qatar n'existait pas il y a 55 ans déjà, tu vois.
Ouais, voilà. On a du mal avec ça en fait. Et moi c'est ça qui me dérange. Pourtant je les défends pas, hein. C'est pas pour les défendre, moi je suis pas pour non plus cette compétition.
Je dis, c'est pourquoi stigmatiser le Qatar alors qu'on a rien dit pour la Russie en 2018, le Brésil.
Ce que dit Cédric est très intéressant, mais c'est là où on oublie toujours l'histoire.
Merci Polo.
C'est-à-dire c'est vrai, parce qu'on est toujours en train de juger l'instant T, et d'ailleurs on juge toujours l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un truc insupportable, mais c'est bon. C'est souvent comme ça.
Ah, ça ouais.
J'ouvre une parenthèse, il est fort possible que des grandes nations fassent un parcours dégueulasse au Qatar juste parce qu'elles veulent se barrer très rapidement. Il y a un exemple très important, c'est la RFA 78, donc en Argentine de Videla. Les Allemands ne voulaient pas rester, ils sont fait éliminer au deuxième tour très rapidement, au revoir quoi.
La dictature de Videla.
Oui, exactement. Donc ça. Et il y a un argument par contre que moi j'accepte pas, c'est que par exemple, on dit oui mais regardez, on a bien donné la Coupe du Monde à tel pays dans ces pays-là avant, etc. Ou par exemple les Jeux Olympiques de 36 en Allemagne, etc. Donc ça, pour moi, c'est un non-argument, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas avancer, entre guillemets.
Exactement.
Que l'histoire est fleurie, l'histoire est bloquée. Et, mais ce que dit Cédric me semble très important, parce que il faut regarder un petit peu l'histoire et savoir aussi que le foot professionnel, comment il est, comment est utilisé médiatiquement au sein de la propagande par les États depuis des années. On va parvenir à l'Italie des années 30, sous Mussolini, etc., comment il fallait gagner le tournoi, etc. Mais ça a toujours fait partie du truc. Sauf qu'on a toujours, moi, je ne supporte pas l'argument de dire, ah oui, mais regarde, avant, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je suis tout à fait d'accord avec Cédric sur le fait qu'on n'a rien dit sur le, j'allais dire l'Union soviétique, sur la Russie, mais aussi, malheureusement, parce que la puissance de la Russie, du Qatar, c'est pas celle de la Russie. Ça, c'est l'indignation à géométrie variable, évidemment. C'est toujours plus facile de taper sur, entre guillemets, un petit pays par rapport à une grosse puissance qui a l'arme nucléaire. Mais ces choses-là, en fait, font que beaucoup d'arguments, c'est comme j'ai vu là pour l'équipe de France, soyez des héros par rapport au Qatar. Mais en quoi les joueurs de l'équipe de France doivent-ils être des héros? Parce qu'ils sont pas d'accord. Déjà, la notion de héros me perturbe beaucoup lorsque j'entends ces associations qui sont contre le boycott, qui sont pour le boycott, etc. Ce sont des choix individuels pour les joueurs. On peut se rappeler Dominique Rocheteau en Argentine, etc. Ou on peut se rappeler ce qui est les boycotts, les différents boycotts qu'il y a eu en Union soviétique aux Jeux Olympiques ou en 84 aux États-Unis. Mais c'est vrai que la réflexion, elle doit être globale et pas juste. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. C'est pas toi, Nico, ni moi, ni les drôles de dames, ni Cédric, qui pouvons faire grand chose. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est pas dire la FIFA.
Mais on peut constater des choses. Ouais, mais on peut constater des choses. On peut constater les indignations à géométrie variable de certains. Et ça, c'est une réalité.
Cédric. Oui, mais ça c'est pas nous.
Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est aussi le fait que ce soit récupéré à des fins politiques. Et il y a des associations qui font sûrement très bien leur travail. Hein. Je remets en doute ce qu'ils font pour les droits de l'homme dans certains pays. Mais t'as l'impression que c'est leur ça leur donne un sentiment d'exister, en fait, de parler
c'est nous qui les ont existé aussi beaucoup en ce moment. Peut-être qu'on les fait pas exister autrement, mais je pense qu'Amnesty comme Human Rights Watch travaille beaucoup sur tous les terrains,
pays. Cédric, cette Coupe du Monde, elle est hautement politique. C'est-à-dire que le Qatar a besoin d'exister économiquement, Polo l'a bien expliqué,
mais diplomatiquement aussi,
et diplomatiquement, c'est-à-dire que c'est une Coupe du Monde géopolitique. Le Qatar, ils en ont rien à foutre du foot, hein.
Mais Cédric, c'est pas vraiment du foot.
Allez, on finit, Polo.
Cédric, il y a un truc, faut pas que tu oublies. Depuis l'arrivée du Qatar en France, il y a des gens qui ont été achetés, des lobbyistes, pour expliquer que tout est merveilleux au Qatar. On a des amis en commun, d'ailleurs, qui ont été appelés par le Qatar, qui voulaient leur filer des chèques pour leur dire que c'était merveilleux ce qui se passait, etc. Et ces gens-là, on les a aussi reçus sur les plateaux télé, médias, radio, etc., pour qu'ils nous expliquent que tout est formidable. Ulioness, en ce moment, est en train de se faire traiter en Allemagne de messager du Qatar. C'est-à-dire que
notre plus grand joueur de l'histoire français était dans le coup.
Mais tout à fait. On n'empêche pas Guardiola, Zidane ou Guardiola, ces choses-là. Je veux dire, il y a des autres périodes de l'histoire où on pourrait se poser des questions si ce ne sont pas des collaborateurs. Je mets ça entre guillemets, évidemment. Ces débats n'existent pas parce que c'est Monsieur Zidane, il est intouchable.
On est obligé d'expliquer.
Ah bon?
On va donner des informations.
En 20 secondes.
Non, mais Zidane, parce que je vais poser la question pour le livre que j'ai écrit sur lui. Je lui ai posé la question sur l'argent qu'il a pris là-dessus.
Je rappelle qu'il est ambassadeur de la Coupe du Monde du Qatar.
Il m'a expliqué que lui, au départ, ce qui l'intéressait, c'est qu'il avait, le Qatar était venu le voir à la fin de sa carrière en 2006 pour lui proposer, avec Ronaldinho, d'aller jouer dans un club qatari. Il avait refusé, mais il trouvait ça intéressant que le football se développe dans cette zone du monde. Alors après, l'intérêt, et ce que je sais, et c'est prouvé, c'est que oui, il a touché quelques millions pour participer à la promotion de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde, mais ça a financé la fondation qu'il a en Kabylie, en Algérie, une fondation humanitaire.
D'accord.
Mais je fais simplement, c'est simplement pour préciser à quoi a servi l'argent que Zidane a gagné au Qatar.
Cédric. On peut les financer autrement, les fondations.
Complètement. Mais là, j'apporte simplement cette information-là.
Mais juste que le débat est très complexe, c'est pas
bien
juste
sûr,
un truc
bien
comme
sûr.
Ça.
Bon, les gars, on a beaucoup d'appels au 32, vous imaginez, c'est un sujet polarisant, extrêmement sensible, beaucoup de messages en direct studio. On va prolonger quelques minutes et évoquer également la place des footballeurs. Faut-il leur demander d'avoir un avis sur les questions politiques, géopolitiques, sociétales ou non? En tout cas, la ministre des Sports française a dit que non. Cédric, merci d'avoir appelé, d'avoir fait le 32-16.
Merci.
Bonne soirée à toi, Cédric.
Merci, bonne soirée.
Tu reviens quand tu veux sur RMC. Je voudrais qu'on parle de Benjamin Pavard aussi, qui s'est livré avec honnêteté, il a parlé de sa dépression pendant le confinement en Allemagne. On va en parler parce que, bien sûr, c'est pas un cas isolé. Les footballeurs ne sont pas des êtres à part. On en parle dans un instant dans Génération After sur RMC 21h27. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC. Merci d'être avec nous 21h30 avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Les directs, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne. 1-0 pour l'Italie. Sur la pelouse de la Hongrie, Raspadori a marqué pour l'été. Tiens Julien, Stone s'est blessé, je crois, il sentait son blessure là. Pour les Anglais, je sais pas
ouais,
si c'est
à 37e minute. Si ouais. si non, je regarde le
pas grave,
le match,
c'est ouais, quoi, ça a l'air sérieux.
Si ça a l'air d'être les ischios.
Aïe.
Je sais pas comment tu peux te blesser, comment tu peux te claquer après 37 minutes de jeu alors que j'imagine enfin ça faisait 37 minutes qu'il jouait, il était chaud. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on en revient encore à l'accumulation des matchs, aux blessures, on a vu c'est tellement ça. De blessures pendant cette trêve internationale, c'est assez incroyable.
Gibo, les espoirs face à la Belgique.
0-0 la demi-heure de jeu, c'est assez équilibré. On a vu un très bon coup franc des Zolofé qui passait pas loin de la au-dessus de la barre transversale, mais la tendance des deux côtés, c'est par exemple Doku qui veut trop en faire, hein, il fait 50 mètres, il peut la donner à droite à Ramazani qui est bien placé, il attend tout seul et c'est contré. Pareil, un Guiri qui en fait un peu trop, on la joue un peu trop perso, on veut faire l'exploit individuel, ils sont jeunes, c'est normal, ils ont du talent. Mais pour l'instant, ça fait 0-0, il reste un quart d'heure dans la première période.
Le Génération After, merci d'être avec nous. On finit sur le Qatar. Messieurs, je voulais quand même vous lire cette déclaration de la ministre des Sports française, savoir si elle vous fait réagir. Elle explique que les joueurs de l'équipe de France de football ne sont pas des hommes et femmes politiques. Ils sont là pour jouer, élever leur niveau de conscience, ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop. Bon.
J'aime pas beaucoup le mot sans leur demander trop. Je trouve ça un peu méprisant pour les joueurs.
Mais bon, bah écoute, voilà. Je sais pas si c'est un débat aussi chez vous, les gars, régulièrement. Est-ce que dans vos pays respectifs, on interroge les joueurs
non, mais en fait, il faut
sur
pas
la conscience politique ou sur une actualité?
Mais Nico, t'as raison sur la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas. Je suis désolé, encore une fois, je vais parler comme un vieux con. Je suis né dans les années 70 où la politique représentait quasiment notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est de l'économie. Et donc, quand tu vois tu as le produit de l'économie au niveau des joueurs, un Paul Breitner, peut-être qu'à l'époque, il serait exprimé là-dessus. Dominique Rocheteau l'a fait 78. Ouais, et on a aussi je suis pas persuadé qu'aujourd'hui.
On est beaucoup politisé aujourd'hui.
Mais bien sûr. Enfin, c'est complètement fou, c'est dramatique de mon point de vue. Mais bon.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Polo. Et juste le truc, c'est qu'il faut rien leur demander, mais il faut pas les empêcher de prendre la parole, tout simplement.
Tout à fait, exactement. Messieurs, Benjamin Pavard, donc touchant, je le dis dans le journal L'Équipe ce week-end, qui parle pour la première fois de sa période de dépression pendant le confinement.
Le Parisien, je crois.
Moi, c'est L'Équipe, mon cher. Le Parisien, alors L'Équipe a dû reprendre, mais moi j'ai. Ouais. D'accord, bon, peut-être, Le Parisien. Ton ancienne maison d'ailleurs, c'est pour ça que tu le cites.
Voilà, c'est ça, il faut défendre la famille.
Il dit, c'est la même maison en plus, le Parisien, L'Équipe.
Ah bon, non.
Plus du tout.
Ah, bah, ça plus
ah c'est fini, t'as raison.
Ah ouais, non.
Mais il y a simplement il y a 4 ans ou 5 ans, je crois.
Ouais. Oh, l'autre, là, simplement il y a 4 ans ou 5 ans. Alors il dit, Benjamin Pavard, dans ma tête ça n'allait pas. Au début tu te dis que c'est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l'entraînement et que tu n'as pas la banane, il faut réagir. Il dit, je suis humain comme tout le monde et même si j'ai une super belle maison avec une salle de musculation, j'avais besoin de contact avec les autres. J'ai masqué, ça qui est intéressant, j'ai masqué devant les autres et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. Bon, on savait hein, Polo, qu'il avait vécu une période difficile, ouais. Benjamin Pavard, pendant le confinement.
Ouais, mais il n'avait pas parlé ouvertement comme ça. En plus c'est un sujet, la dépression, qui est très importante en Allemagne, parce qu'on a quand même eu un cas très très particulier qui est le suicide de l'ancien gardien de la sélection allemande, Robert Henke, en 2009, hein, qui a d'ailleurs favorisé l'arrivée de Manuel Neuer en équipe nationale, faut pas l'oublier, en 2010 en Afrique du Sud. Et si tu veux, ce thème revient très souvent en fait aujourd'hui. On a un autre exemple des années 2000, évidemment, d'Eisler, qui était évidemment un grand espoir du foot allemand, et entre ses blessures et ses dépressions chroniques, voilà. Mais par contre, tu te rends compte qu'au niveau des fédérations, au niveau des clubs, etc., il y a peut-être des cellules, des choses comme ça, mais globalement, moi, je ne trouve pas que ça avance. Et puis, juste pour défendre, entre guillemets, le football, je rappelle quand même que la dépression, et je sais de quoi je parle, c'est l'une des pathologies les plus importantes, l'une des 10 plus importantes du 21e siècle, au minimum dans l'Occident. Et donc, ce n'est pas un truc qui est forcément réservé au sport, c'est un truc très important, mais maintenant, savoir le pourquoi et les symptômes, pourquoi ça arrive, c'est quand même, moi, je n'ai pas le niveau, en tout cas, pour répondre à ce genre de questions.
Vous avez beaucoup d'exemples dans vos championnats respectifs également, les gars. Julien, en Angleterre également, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué.
Ouais, beaucoup évoqué. Danny Rose, par exemple, l'ancien international anglais de Tottenham, qui, entre une période très compliquée à Tottenham, avec des blessures, avec le fait qu'il jouait très peu, le suicide de son oncle, par exemple, il y a souvent, après, le déclencheur ou le déclenchement, peut être différent. Ça peut être un confinement comme pour Pavard, ça peut être une blessure, ça peut être voilà, des problèmes personnels, familiaux ou de mariage.
Enfin, c'est
voilà,
pas toujours lié à la pression du haut niveau.
Exactement. Mais il y a de plus en plus de clubs ici en Angleterre qui font appel à des psychologues, mais qui avant venaient une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ou alors quand les joueurs voulaient sur rendez-vous entre guillemets, qui maintenant sont là, sont des employés à temps plein des clubs et qui sont là tous les entraînements, tous les jours aux entraînements. Et si les joueurs veulent venir, la porte est toujours ouverte. Mais c'est vrai qu'en plus avec le confinement, je pense que ça a aggravé encore les choses et certains cas, c'est sûr. Et les Anglais, eux, là où les joueurs se battent le plus, c'est pour dire, mais c'est pas parce qu'on est millionnaire ou qu'on gagne 150 000 euros ou 200 000 euros par mois, ou même beaucoup plus pour certains, qu'on peut pas aussi avoir des sentiments et des problèmes d'ordre mentaux. Donc,
mais voilà. T'as raison, parce que c'est souvent une réaction de beaucoup de gens. Je vois sur Direct Studio un message, oh, la plonicheuse Pavard, millionnaire dépressif.
Ouais. Bah oui, non.
Voilà aussi pourquoi les footballeurs n'osent pas en parler. C'est pas uniquement pour cette raison-là, parce que c'est un milieu où il faut être très fort, ne pas montrer faiblesse dans un univers hyper concurrentiel.
C'est la question de la performance.
Être dépressif, c'est pas être au niveau. C'est ça que ça veut dire.
Non, et puis surtout, on a.
En Espagne, juste quelques exemples, Fredo.
Ah oui, on a beaucoup d'exemples. On a deux très connus. Le plus récent, vous vous souvenez, c'est quand il était jeune, c'était Navas, Jesús Navas, qui faisait des crises d'angoisse parce qu'il habitait encore chez ses parents quand il devait dormir en dehors de chez ses parents. C'est-à-dire que il ne pouvait pas faire les stages de début de saison. Avec Séville, parce que dormir 2-3 nuits loin de chez lui, ça le rendait fou. Il ne dormait pas, il s'étouffait. Enfin, c'était très grave. Et d'ailleurs, à l'époque, on a parlé de Ramos, mais il y avait un doute pour l'emmener à je sais plus quelle Coupe du Monde. Je crois que c'est la 2014, il me semble. Il me semble que c'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Vicente Del Bosque se pose la question d'emmener Jesús Navas en se disant mais c'est compliqué. Voilà, il était traité par un psy, etc. Et c'est Ramos en fait qui avait dit à Del Bosque, je vais m'occuper de lui. Et ça s'était plutôt bien passé, voilà. Et lui a fait une grosse thérapie pour pouvoir dormir en dehors de chez sa mère. Et puis on a un exemple qu'on a un peu oublié, c'est au tout début de Galactique, saison 2001-2002, un défenseur qui s'appelait Ivan Campo, vous vous souvenez, il n'était pas très beau.
Mais en Angleterre aussi, après quand il est venu à Bolton, c'est pareil.
Et Ivan Campo, en fait, il faisait des crises d'angoisse où il ne dormait plus. Et donc, il pouvait pas être performant à l'entraînement parce que la nuit, il a été absent pendant deux ou trois mois dans cette saison-là. C'était lié aussi à la pression qu'il y avait au Real Madrid. Le club Florentino venait d'arriver à la présidence depuis un an. Il y avait l'arrivée de Figo, Zidane venait d'arriver. Les Galactiques étaient en train d'être construits et il y avait une pression de malade au Real. Et lui avait du mal à
la supporter. Importante. En France, évidemment, on commence tout doucement à évoquer le sujet, mais bien plus tard que peut-être dans certains de vos pays. Je sais qu'à Lens, on fait appel à un psychologue à disposition pour certains joueurs. Dans d'autres clubs de Ligue 1, c'est pas encore dit, c'est encore tabou. Est-ce qu'en Italie, on en parle, mon cher Johan? Et est-ce qu'il y a des structures d'aide psychologique, en tout cas?
Alors, on en parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui prennent la parole. Récemment, il y a Gianluigi Buffon qui a évoqué un passage très compliqué de sa jeune carrière où il avait eu des crises d'angoisse avant des matchs à tel point que il était plus capable de jouer en fait. Il y a un match où il a failli pas jouer tout simplement parce qu'il avait fait une crise d'angoisse, de panique avant la rencontre et où il disait en fait, on me voyait juste comme un super-héros, tout le monde disait ah, faut que Buffon soit performant, mais personne s'intéressait à Gianluigi, la personne que j'étais, et il disait que s'il en avait pas parlé à un professionnel, etc., il est pas certain qu'il aurait réussi à s'en sortir. Donc il y a le cas de Josip Ilicic aussi post-Covid, lui aussi, où ça signifie quasiment la fin de sa carrière de haut niveau à Bergame, où c'était très compliqué de revenir. Il a essayé de revenir, puis il a replongé. On sait qu'à l'Atalanta, ils ont pris vraiment soin de lui, qu'ils ont évité de trop médiatiser, qu'ils l'ont vraiment aidé, etc. Mais la dépression, c'est compliqué à gérer. Et parfois, il faut beaucoup de temps, il faut plusieurs personnes, il faut... Donc des structures en elles-mêmes, j'ai pas vu de choses particulières et j'en ai pas à ma connaissance. Après, que des personnes viennent dans les clubs, des psychologues viennent dans les clubs pour parler aux joueurs, etc., ça oui, mais des choses de plus grande ampleur, non. Et je sais pas si mettre un psychologue dans un groupe de 25, avec les entraîneurs aussi, etc., c'est suffisant en fait. C'est voilà. Et on connaît aussi le...
On connaît aussi la question de la précarrière, excuse-moi.
Ouais, bien sûr. Et ben justement, c'est ce que je voulais évoquer. On a parlé de la carrière.
C'est très brutal chez nous aussi, ouais.
Et les blessures, hein. En cas de blessure, comment le joueur est accompagné aussi, hein. Parce que moi, j'ai un exemple très marquant en Italie. Un jeune Suédois qui était au centre de formation de l'Inter. Et en fait, il était arrivé à faire une tentative de suicide après une lourde blessure. Parce que il était enfermé dans sa chambre au centre d'entraînement de l'Inter, il faisait rien, il voyait personne, il pouvait plus pratiquer son sport préféré, il était coupé quasiment de tout et il en est arrivé à faire une tentative de suicide et à l'Inter, c'était de mémoire au début des années 2000 ou fin 90, je m'en rappelle plus. À l'époque une psy à Milan lui avait dit mais je comprends pas pourquoi tu veux te suicider, t'as une belle bagnole, tu peux te taper qui tu veux, entre guillemets, voilà, je le dis de manière un peu crue, mais n'importe quelle fille, tu peux l'avoir dans ton lit, t'as une belle bagnole, t'as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Et il se fait, non, je suis pas heureux. Donc, le cas de la blessure et le cas de l'après-carrière, c'est deux moments où les joueurs sont très vulnérables.
Polo, t'as beaucoup de cas également en Allemagne, hein, tu t'en as parlé régulièrement dans l'after, justement.
Évidemment, j'ai Robert Henke, Deisler, évidemment. Mais encore l'année dernière, on en avait parlé, on a même passé une vidéo de Max Eberl, le manager du Borussia Mönchengladbach, qui s'écroule, en fait, parce qu'il est complètement dépressif, qui se met à pleurer, qui ne peut même plus partir. Il est revenu dans le monde du football, mais, ce qui est vrai, c'est que, je pense que c'est lié. Moi, je suis pas un psychologue, hein, donc faut que les gars, faut aller chercher des spécialistes. Mais la question de la performance dans nos sociétés modernes, moi, me dérange toujours un petit peu parce que ils ont pas le droit d'échouer, ces gens-là. Or, ils sont humains comme tout le monde. J'enfonce des portes là, des portes ouvertes. Et donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et moi, c'est pour ça que quand je vois ces performeurs qui peuvent craquer, j'ai toujours la question de pourquoi en faire des héros, pourquoi en faire des modèles de la nation. Alors qu'ils sont fragiles comme tout le monde, alors que leur état physique est souvent compliqué à la fin de leur carrière, l'état mental, parfois c'est délicat, etc. Il faut être. On sait que c'est un système de sélection extrêmement dur, aussi bien dans les centres de formation. Exactement. Moi, je me rappelle très bien avoir lu l'autobiographie de Manu Petit, etc. Comme j'ai vécu en internat quand j'étais gamin et que lui me disait qu'il avait été en internat tout seul au début. Je sais ce que ça veut dire de pleurer tous les soirs parce que t'es tout seul, t'as pas les parents, t'as ceci, t'as cela, et donc est-ce qu'on doit faire de joueurs de foot moderne qui est riche, qui représente qui en plus en France en tout cas vient souvent de milieux difficiles en pourcentage et qui réussit dans la société parce qu'il a de l'argent et sont contents. Est-ce que ça doit être aussi des modèles pour la nation, pour les gamins et tout ça? Moi, ça me dérange beaucoup parce qu'il y a quand même, on met beaucoup de poussière sous le tapis quand même.
Fredo, pour finir.
Johan a évoqué l'après carrière. C'est vrai que
la petite mort, hein, comme on l'appelle.
Oui, mais parce que pour en avoir parlé avec beaucoup de sportifs de haut niveau, en fait, il y a quelque chose qui les perturbe énormément une fois qu'ils arrêtent leur carrière. Et c'est là où ils ont besoin de se préparer. On décide pas du jour au lendemain d'arrêter quelque chose qui est votre vie depuis 20 ans, parce qu'ils démarrent très tôt. C'est l'organisation de la vie. C'est-à-dire que le plus dur pour la plupart de ces grands champions, c'est que jusqu'ici leur journée était organisée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le club disait. Tu viens à 8h et à 9h prendre petit déjeuner au club. Entraînement, t'as là.
Ils avaient un cadre quotidien.
Un cadre. L'avion, il va être à telle heure. Voilà, tout. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec beaucoup de temps et personne pour organiser ta vie. Et ça, par moment, mais très souvent, ça déboussole totalement ces grands sportifs qui étaient accompagnés au quotidien dans leur vie.
Voilà pour le sujet que vous vouliez évoquer, hein, les gars, aujourd'hui dans Génération After spécial Drôle de Dame. Dans un instant, Polo voudrait évoquer un grand film, Potato Fritz. Avec Paul Breitner. Allez, dans un instant, Daniel Riolo sera avec nous aussi. Il aura des questions et des remarques à faire après les matchs de vos sélections ce week-end. Jibo, but des Belges face aux espoirs français.
Exactement, but des Belges avec un centre de Doku. Et c'est un joueur qui a marqué un but contre le Real Madrid. Mon cher Fred, c'est un joueur d'Almeria. C'est Larji Ramazzani.
Il est très bon d'ailleurs. Il n'était pas en Angleterre avant?
Si, avant, il était à Manchester.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Et toujours 1-0 pour l'Italie sur la pelouse de l'Angleterre.
1-0 pour les Belges à 1 minute de la mi-temps.
Et 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne, c'est la mi-temps également en Ligue des Nations. Allez, on revient dans moins de 2 minutes. Restez avec nous sur RMC, 21h45.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h46 avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurent, Suan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. Gilbert arrive à 22h avec Daniel Riolo qui lui est déjà là, comme tous les lundis soirs. Habitude prise désormais, 21h45. Daniel entre dans la danse des drôles de dames. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
T'es encore bronzé toi, comment c'est possible?
Parce que je tennis tous les jours.
Un très beau week-end au soleil.
Où ça?
Sur une île espagnole annexée par l'Italie, Formentera.
Ah oui.
Tu sais qu'il n'y a pas d'espagnol.
Mais t'es déjà allé, non, cet été?
Oui, mais là c'était... Il y a parfois des coïncidences dans la vie. J'y suis allé en vacances et là j'étais invité pour un mariage.
D'accord.
Ah, ouais, bien. Soir, il y a fait le temps, bon. C'est bien.
Ouais, mariage important, petit comité, grand mariage.
Ah, non, grand mariage. Très beau mariage d'ailleurs. Ah, bon. C'était très bien dans un bel endroit en plus. Mais je suis étonné par le
fonctionnement de
cette île. Ouais. Et il y a quasiment pas d'espagnol. On te parle en italien. Des...
Bah, à Majorque, c'est des Allemands. C'est mais bien. Pour avoir des vrais espagnols, il faut la Menorque. Minorque.
Minorque. Je ne connais pas.
Voilà. Est-ce que tu connais Daniel, toi qui signifie également ce film Potato Fritz?
Potato frites, non, je connais poulet frites du grand Max Pécasse.
Oh, génie.
Voilà. Alors, un film avec Hardy Kruger et Paul Breitner. Paulo nous a envoyé ça aujourd'hui, par mail.
Mais non, c'est pas ça. Le vrai Paul Breitner, ouais, c'est un film pourri d'ailleurs, de 1976.
Donc, comme le titre le laisse.
Non, mais c'est pour le marché allemand. C'est qu'en fait, c'est Fritz en Allemagne. En fait, bon, ça, il faut revenir à l'historique de l'immigration allemande très rapidement, de l'immigration allemande aux États-Unis, où souvent, ce sont des producteurs de patates qui arrivaient là-bas. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Potato et Fritz, c'était son prénom. Mais ça porte un autre nom. Mais sinon, il y a Hardy Kruger quand même, qui est pas n'importe qui au niveau des acteurs, qui a fait une grande carrière. Ouais, voilà, qui a une carrière extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui qui était un vrai blond aux yeux bleus et repéré par les nazis pendant la période nazie justement, pendant le nazisme. Et le mec, il a refusé justement de tuer différentes personnes. Et il s'est enfui et on l'a failli le fusiller pour ça justement. Et Hardy Kruger a fait une très très belle carrière aux États-Unis. Donc voilà, c'était très très important. Donc Paul Breitner joue dans ce film-là, voilà. 1976,
c'est un film pour bon. Alors, on a appris aujourd'hui
qu'il
allait jouer dans la série X et Obélix. Voilà. Je sais pas s'il va. Il aura un dialogue ou pas. Souvent, les footballeurs, on leur demande de jongler dans des films comme ça. Juste ça, pas plus.
Ouais. Et vous avez vu qu'Allegri sera aussi dans le prochain Asterix?
Ah non, j'ignorais ça.
Pourquoi? Ah, il sera jeu tout pour X.
D'accord.
Il y a nous la victoire.
En revanche, là, tu sors.
Sinon, il y a John Huston à nous la victoire.
Bon, il y a beaucoup de films, hein. Pelé a joué dans pas mal de films également.
Ancelotti avait joué dans un film en Italie.
Oui, j'ai vu ça, ouais. Qui s'appelle
L'Allenatore nel Pallone.
Mais non, c'est Don Camillo, une version revisitée de Don Camillo.
Ah oui, avec oui, non, avec comment il s'appelle,
il joue pas en fait, il court sur un terrain.
Oui, oui,
tout,
non, mais c'est avec Bud Spencer et
Terence Hill.
Terence Hill,
bien sûr. Daniel.
Oui.
Alors, dis-moi, de quelle sélection tu veux parler?
Est-ce que j'ai du temps? J'ai pas de temps.
Vas-y, vas-y. 6 minutes.
Ah bon, d'accord.
Donc tu passes un choix entre les quatre.
Oui, non.
Sans vexer personne.
Non, je vais essayer d'en caser plusieurs, mais en fait, ma question, c'est à qui je vais faire le plus plaisir, tu vois, dans les thèmes qu'il aime bien traiter. Je crois que je vais faire plaisir à Julien.
Ah.
Parce qu'en plus, ça colle presque avec mon autre question pour Polo. Donc je vais faire d'une pierre deux coups puisque l'Allemagne et l'Angleterre sont en train de s'affronter. Julien, j'ai envie de te faire plaisir. Je les vois, ces Anglais, jouer. Je sais que tu n'en peux plus depuis longtemps, que tes confrères anglais, eux, vrais anglais, pas comme toi, n'en peuvent plus non plus, avec un peu de retard sur toi. Pourtant, il ne bougera pas. Il ne bougera pas, il va falloir vous y faire, il est là. L'Angleterre joue mal, l'Angleterre ne fait pas de jeu, l'Angleterre attend, essaye de contrer péniblement. Et ce qu'il y a de plus dingue, c'est que cet homme-là reste sur une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro. Et l'Angleterre joue très très mal. Mais où vous allez en fait avec ce type?
Alors au Qatar, ça, on y va, c'est sûr. Mais après, effectivement, je sais pas jusqu'à quelle date. Ce soir, c'est 0-0 à la pause. On l'a dit tout à l'heure. Ils jouent en contre, effectivement. T'as raison, parce qu'ils peuvent rien faire d'autre.
Ouais.
C'est pas très beau, mais ils ont quand même la meilleure occasion avec Sterling qui doit marquer. Mais il y a beaucoup de déchets des deux côtés. C'est un match pourri des deux côtés.
Mais l'unanimité maintenant. J'ai eu l'impression que pendant longtemps, t'étais un peu le seul. Je sais pas comment étaient les Anglais, tous les journalistes anglais, les consultants anglais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a unanimité à dire que c'est un tocard.
Ouais, tout à fait. Et tout le monde, hein, même les journalistes très de encore une fois de journaux respectés,
ouais.
Comme dans les tabloïds où
ça déclenche. On a l'impression que c'est un peu tard pour se réveiller parce que maintenant on y va avec lui, quoi.
C'est vrai, mais je pense que, comme on disait au début de l'émission, rapidement, c'est qu'à un moment, il a été protégé par ces résultats dont tu parlais, la demi-finale, la finale, oui. Et qu'à un moment, même ça, ça ne peut plus le protéger. Donc c'est vrai qu'il le sait très bien, hein, si ça se passe mal au Qatar, s'il y a une élimination précoce, il va sauter, et puis après, ils auront du temps pour choisir quelqu'un d'autre et repartir sur un nouveau cycle. Mais j'ai bien peur que si c'est un résultat un peu mitigé, donc c'est ni bien, ni trop nul,
on se continue encore jusqu'à
l'Euro.
Mais c'est pas possible.
Moi, je pense qu'il pourrait partir de lui-même si les critiques devenaient vraiment trop.
Ah ouais, parce que là, c'est compliqué.
Bon, il a un contrat jusqu'en 2024.
Voilà, Coupe du Monde en se bouchant le nez.
Ouais, jusqu'à l'Euro.
Polo, maintenant, donc les Allemands sont en face. Et moi, et ça fait pas mal de temps maintenant que ça dure, et je sais que le sujet t'agace aussi un petit peu. Enfin, il y a que des bons joueurs, moi, dans cette équipe, ou alors je me trompe, et il y en a qu'on surestime. Il y a que des jeunes joueurs, des bons joueurs, qui jouent dans des très bons clubs. Il y a un bon coach. Que tu aimes bien et qui succède à un homme qui était peut-être un peu fatigué, mais je trouve pas que ce soit formidable non plus. J'ai l'impression que c'est un peu le thème du moment, les grosses sélections qui sont pas fringantes, mais pour l'Allemagne, je sais pas, ça te plaît, t'es confiant, je trouve pas ça formidable, alors qu'il y a de la qualité partout.
Quand tu suis la sélection allemande depuis 40 ans, en tant qu'amateur, gamin et jusqu'à maintenant, tu peux ne pas forcément apprécier l'Allemagne en 2022 par rapport à certaines de ses devancières. La deuxième chose, c'est ils sont toujours pas de neuf, hein, faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on y a eu des belles choses qui ont été faites. Je pense au match retour contre l'Italie, le 5-2. Ils ont pas perdu contre les Anglais, etc. En Allemagne, le problème, si tu veux, c'est que la presse, c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission. Soit ils sont champions du monde, soit ils sont rien du tout. Et là, comme ils ont perdu contre la Hongrie, qui est pourtant pas une mauvaise équipe et qui fait le boulot.
Ils
deviennent plus rien. Donc même le bloc Bayern, même le fameux bloc Bayern ne fonctionne plus d'après la presse allemande. Donc moi je pense que les Allemands vont être très compétitifs pour cette compétition. Je reste persuadé que les Espagnols de par l'Euro et leur demi-finale à l'Euro sont en avance parce qu'ils ont une référence alors que les Allemands sortent sur deux compétitions ratées. Maintenant tu l'as dit, la qualité elle est là. Maintenant comment ça va se tourner au Qatar avec les conditions climatiques, etc. On verra. Mais ils vont pas jouer non plus tout le temps contre des équipes qui avec un bloc qui est à 30 mètres de leur but quoi, pendant 90 minutes. Donc ouais. On verra ce que ça va donner.
Bon, vas-y, Daniel, rapidement.
On continue. Johan, la salade des regrets, elle a quel goût en Italie? Parce que c'est bien beau d'aller au Final Four de la Ligue des Nations, d'avoir un super beau maillot qui aurait été magnifique sur les pelouses du Qatar, d'avoir une équipe qui, elle, même avec des joueurs nettement moins clinquant que les autres sélections, cherchent toujours à faire le jeu, cherchent à jouer haut, c'est toujours très agréable de les regarder. Mais on en dit quoi en Italie? Ça marche d'ailleurs les audiences? L'équipe regarde un peu? Les gens regardent encore ou pas?
Ça marche pas mal. Alors le match de ce soir, j'ai forcément pas encore les audiences, oui. Mais le match contre l'Angleterre, c'est 31% de part de marché.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas mal, c'est plus de 6 millions 2 de personnes.
Donc on regarde même si on va pas à la Coupe du Monde et que la déception elle est encore en travers de la gorge.
Voilà, mais ça la déception tu l'auras toujours, mais ils pensent encore à la déception de 2017, enfin l'élimination en barrage contre la Suède. Donc ça tu l'auras toujours, ça aura un goût très amer, etc. Et maintenant je trouve que le mood est un peu en train d'évoluer, de changer, c'est pas plus mal quand je vois les unes de la presse italienne au lendemain de la victoire contre l'Angleterre, quand je vois les analyses sur le jeu, sur la continuité dans le jeu de Roberto Mancini, les choix payants de Roberto Mancini, ça repart sur une dynamique un peu positive après des mois et des mois de catastrophisme très largement exagéré, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est une énorme déception, évidemment, de ne pas aller à la Coupe du Monde.
Non, mais quand tu les vois, là, comme ça, jouer, même ce week-end, ce soir, avec plein de joueurs plus ou moins connus, oui.
Il manque une dizaine de titulaires.
La salade de regret, elle doit être...
Ah, mais elle est immense, hein. C'est... Tu vas y penser pendant un long moment, mais ouais. La force de Mancini, c'est d'avoir fait...
Moi, je suis convaincu qu'elle aura pu faire quelque chose à la Coupe du Monde, cette sélection.
Ah oui, bien sûr, ça c'est sans aucun doute, parce qu'elle a beaucoup de talent, même si là, il vient d'y avoir 4 occasions en une seule pour la Hongrie, mais y a évidemment beaucoup de qualité.
Deuxième but, un penalty.
Il vient de
un pénalty qui devrait arriver pour les Allemands aussi.
Bon, on verra ça tout à l'heure avec Gilbert Drivois pour la suite des directs.
Il sera au Final Four, mais ça ne consolera personne. Je termine rapidement avec Fredo. Je te laisse tranquille avec ta sélection. Et c'est sérieux, Asensio, qui va au Barça?
Bah, écoute, c'est.
Près dans 10 secondes.
La radio catalane très bien informée, Raku, qui l'annonce aujourd'hui. Son contrat avec le Real se termine en 2023, donc en juin. Et il semblerait, d'après les collègues espagnols, qu'il ait un accord, un pré-contrat avec le Barça pour 4 ans, qu'il arriverait libre dans...
Asensio, c'est un enfant du Real ?
Non, c'est pas un enfant du Real. Il est, au départ, il est de zone Barça. Il est zone Barça parce qu'il vient de Majorque et c'est plutôt la zone d'influence du Barça là-bas. Il s'était, le Real avait réussi à le choper. Pour moi, ça reste un énorme gâchis. C'est un joueur qui était appelé à être un joueur extraordinaire.
Il y a eu des retards, mais je pense.
Il y a eu deux choses. Il a découvert la fête à Madrid et puis il s'est fait les croisés aussi. Et il est jamais revenu à son niveau. Moi, j'en avais discuté un jour avec Zizou qui me dit le problème, c'est que il ne sait pas se faire mal à l'entraînement. Ah. Et pour devenir un très grand joueur, il faut se faire problème. Très mal à l'entraînement.
Enfin bon, la question c'est que le Barça c'est sérieux.
En tout cas, j'ai pas la confirmation. C'est toujours un truc. Mais ce serait un échec pour Asensio et un échec pour le Real. C'est parti.
Merci les gars. Certains d'entre vous restez dans l'after. Cher Gilbert est avec nous. Bonsoir Gilbert.
Parce que moi aussi j'écoute les drôles de l'âme attentivement. Et tout à l'heure, en première heure, Polo, doucement, tranquillement, il a dit « Ouais, de toute façon, les deux plus grandes équipes de l'histoire du football, c'est le Brésil et l'Allemagne. » Puis il a enchaîné. Personne n'a...
C'est une réalité.
Tu prends tous les records.
Tu veux dire qui?
Tu prends tous les records.
L'Italie, en 3. Il ne peut pas y avoir
l'Italie en 3. Mais c'est difficile de
battre.
Brésil, Allemagne, Italie.
On est tous d'accord.
Bon, Gilbert a voulu faire une polémique artificielle.
Écoutez, il n'y a pas qui réagit. On est où là?
Mais c'est la réalité.
Dans l'after ou quoi?
C'est le football. Le trio histoire de l'histoire du foot, c'est.
Il y a un crochet, il dormait ou quoi? Simonet, t'aurais mis le feu là.
Brésil, Allemagne, Italie.
Bah oui, mais bon, quand tu connais l'histoire du foot, tu mets pas le feu, hein, je suis désolé. Brésil, Allemagne, Italie, effectivement, c'est d'une logique implacable, donc il n'y a rien à dire, non?
Il y a eu un interlude espagnol pendant un moment, mais c'est tout, quoi.
Il y a eu un interlude hongrois, il y a eu un interlude français, il y a eu un interlude argentin.
Je te parle de l'histoire, Gilbert.
Brésil, Allemagne, Italie,
je sais bien que les libéraux et l'histoire, c'est compliqué, mais quand même.
Les gars, je vous rappelle que, aussi, ils sont officiels, quand les deux premières sélections rencontrent l'Italie, c'est l'Italie qui gagne. Bon, RMC vous offre des places pour le match Tunisie-France au Mondial au Qatar le 30 novembre, le vol, l'hébergement, vos places pour le match, tout est aux frais d'RMC. Vous allez aussi rencontrer l'équipe de RMC sur place, hein, c'est un privilège immense. Gilbert y sera, Daniel y sera aussi.
Bien sûr.
Vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16 pour gagner ses places pour Tunisie-France le 30 novembre, l'after. Certains d'entre vous restent, les drôles de dames d'ailleurs.
Johan, t'aurais dû me corriger. On parlait d'Italie, quand même perdu deux finales contre le Brésil.
Allez, l'after dans un instant avec Gilbert, Flo Gautreau et Daniel. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.